L'équipe du soir, bonsoir à tous. Quelque chose me dit que l'émission va être piquante ce soir. Je sais pas, une intuition. Nous allons tout de suite présenter nos invités. Le président est élégant de l'équipe du soir. L'élégant, c'est Johan Micou. Bonsoir Johan.
Bonsoir.
Alors vous étiez là hier, vous étiez là ce soir?
Ouais.
Ça va, pas trop de surmenage?
Ça va.
Ça va, ça va, allez.
Je travaille un peu plus que des champs, mais ça va. C'est fatigant.
C'est bon, quelle intuition. Dans votre vie de peuple, il était déjà là c'est hier soir pour le Classico. C'est Hugo Guimet. Bonsoir, vous remplissez le doublé Coupe Championnat.
Ça fonctionne en binôme avec le joueur.
Alors, attention, parce qu'on peut être d'accord. On peut être d'accord un soir avec Johan Micou et s'engueuler le deuxième soir.
Oui. Hein? Mais c'est à cause de lui. C'est lui qui change d'avis.
Ah, c'est toujours la faute du président. Et le marquis est dans la place, bonsoir. C'est le retour du marquis le lundi. Bonsoir, monsieur Lemay.
Bonsoir à tous.
Ça va?
Une belle fin de championnat qui arrive?
Ouais, c'est une phrase convenue, une phrase toute faite. Oui, mon petit monsieur.
On se faisait tellement, on s'embêtait tellement.
C'est vrai qu'on sait pas encore qui va être champion et tout. Non, mais c'est bien.
Non, ça fait des années que tu le sais. Les places européennes qui
sont sympas. Non, mais vous avez un mot aimable et tout de suite, on vous tombe dessus. On est vraiment des salopards.
C'était chaud hier soir.
C'est la jungle ce soir.
Ah, c'est la jungle. La reine mère est dans la place. Bonsoir, la reine mère. Bonsoir, Siani.
Bonsoir, tout le monde.
Ça va, on se quitte plus, hein, vendredi, lundi, tout ça.
Un petit week-end sur les stades de Ligue 1, puis je suis de retour.
Ok, très bien. Vous étiez à Clermont?
Lyon et avec Hugo et puis Clermont le dimanche.
Ouais. Ok, ouais, ouais, je vous ai lu.
Dimanche un peu morose quand même.
C'est démission, ils veulent que l'entraîneur démissionne. Là.
Bah oui, il prend sa retraite à la fin de l'année. Ouais,
mais bravo d'avoir réussi à rentrer de Clermont, c'est pas tout.
C'est un petit exploit.
Ah ouais, c'est vrai?
Ouais, pas facile le train.
Pas facile?
Passe une annonce.
Ok, d'accord, très bien.
Okay.
Il ne rentre pas du train, lui, regardez, c'est l'homme qui a fait le vide-grenier de Nelson Mandela. C'est lui. Hervé Penaud, Patrick Juvet, bonsoir.
Je prends d'autant moins le train, mon bébé, que je reviens, vous savez d'où, la Réunion. Alors j'embrasse tous les gens de la Réunion, c'était magnifique.
C'est vrai.
Moyen, exceptionnel. Exceptionnel. Réunionnaises et Réunionnais, je vous embrasse.
Vous étiez là-bas tout seul ou avec votre meilleur ami?
J'étais avec ma femme.
Avec votre femme?
Je suis allé voir mon meilleur ami.
Ah d'accord, très bien. Ok. Bon, excusez-nous, on a l'élégant sur place. L'élégant, vous validez cette chemise. Elle,
bah, vous pouvez... C'est à son image. C'est... Dans le top 5, on va dire.
Bravo. C'est quoi, c'est un petit couturier ivoirien?
C'est ivoirien.
Ah, c'est ivoirien.
D'accord. Ivoirien. Ça, on sent la touche ivoirienne.
Mais on voit surtout quand même. Enfin, bon, c'est autre chose. Romain Aran, bonsoir. Le journal du Havre, on passe en crypté à partir de minuit. Mais pour l'heure, vous êtes visible. Bonsoir, Romain.
Bonsoir, bébé. Bonsoir à tous.
Ça va?
Ouais, ça va.
Mbappé est énervé. La superstar sortie par son coach hier lors du Classico à la 64e minute. Nous avons eu en direct sa réaction. Oh non, je sors déjà, c'est pas possible. Oh, voilà. Il comprend pas la décision. Son coach, ok, sur Instagram, il prolonge un peu ce moment avec une très très belle photo en contre-champ. Vous la voyez avec son petit brassard là, dans la main, sans aucun commentaire, sans aucun texte. Le joueur a prolongé, on va le dire, interprétons ça, sa tristesse, sa colère, son mécontentement. Ce qui n'est soumis à aucune interprétation, c'est que Kylian Mbappé a raté son dernier classico avec le Paris Saint-Germain et quittera le club dans 2 mois. Alors est-il en train de rater sa sortie? C'est notre position de départ à cette question. 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, on y va. Ah, okay. Président, il y aura un oui, il y aura un non. Le oui, il est en train de rater sa sortie. C'est Hugo Guimet, votre compère, là, avec qui vous convolez en juste noce depuis 48 heures, ou 24 heures plutôt. Non, Hervé Penaud, vous allez être en contre. On écoute Hugo Guimet, puisqu'il a son rond de serviette depuis 24 heures. On y va, Hugo. Pourquoi il est en train de rater sa sortie, notre bon Kylian?
Il rate sa sortie parce que malgré ses records de buts et de titres, il n'a jamais su créer un attachement avec le club, avec les supporters et l'environnement. Depuis 3 ans, il déclenche des épisodes chaque été qui déstabilisent et qui créent en fait toute l'actualité autour de son cas personnel. Et sur ses dernières sorties, il a montré que dans la victoire comme dans la défaite, il avait des réactions égocentrées. Un capitaine ne devrait pas faire ce qu'il a fait à Monaco et un capitaine ne devrait pas réagir comme il l'a fait encore après un classique.
Hervé Penaud, vous répondez non. Pourquoi?
L'avantage de l'âge, c'est un peu l'expérience. Il ne faut pas s'arrêter à ces deux épiphénomènes. Vous savez, Kylian Mbappé, ce qu'il a apporté au championnat de France, ce qu'il a apporté au Paris Saint-Germain. Alors là, je vais aller en contre sur l'histoire de l'apport au Paris Saint-Germain. Peut-être que certains supporters l'apprécient plus ou moins, ça c'est une chose. Mais l'image, l'impact, le rayonnement qu'il a pu avoir au niveau international. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain sans Mbappé, ce ne sera plus du tout le Paris Saint-Germain avec Mbappé. Ça, il faut bien s'en rendre compte, comme il était avec Messi ou Neymar. Et Kylian Mbappé, c'est quand même 24 buts cette année. Alors, il a boudé, c'est pas bien ce qu'il a fait, oui. Mais n'oublions pas tout ce qu'il a fait, c'est un problème de mémoire quand même. Fait peur.
Ok. Monsieur Guillemet, vous êtes, selon le docteur Penaud, victime d'amnésie. Vous irez à son cabinet consulter. Ne vous inquiétez pas.
Il a pris autant de notes pour
tout ça.
Ça
n'est pas grave. Est-il en train de rater sa sortie ?
Non, mais c'est sur les autres débats, ça.
Ah, d'accord.
Non, non, là, c'était pas encore.
Plus, vous allez sur le site d'équipe, les amis, pour trancher. Vous partagez la sensibilité de la liste d'Hugo. C'est Hugo, c'est oui, c'est non, c'est Hervé. Président, à vous de jouer.
Non, mais après ce que dit Hervé, il aura marqué l'histoire du club. Mais là, on parle de la sortie. On ne parle pas de tout ce qu'il aurait pu faire, tout ce qu'il a fait avec le PSG. Mais là, je trouve qu'il est en train de la rater. Ouais. Et je pense qu'il va y avoir un moment très, très important pour moi pour voir si finalement il part en beauté ou pas. Ça va être le quart de finale. Si, pour moi, il faut qu'il réussisse ces deux matchs-là. Parce que s'il rate ces matchs-là et ils sont éliminés, là, je pense que ça va être une mauvaise sortie. Parce que déjà, dans l'attitude aujourd'hui...
Les carottes ne sont donc pas cuites.
Non, je pense pas.
La question d'ailleurs, il est en train de la rater. Moi, s'il gagne la Ligue des Champions, il la ratera
par son attitude. D'accord. Mais je pense que le quart de finale, de toute façon, le truc qui va faire la différence, pour moi, c'est la Ligue des Champions. Si la Ligue des Champions se passe bien et que lui fait de bons matchs, il se qualifie, etc. Je pense qu'on va. Moi, j'oublierai pas, mais je pense que la majorité des gens vont oublier ces attitudes-là pour le saluer à son départ. Maintenant, selon moi, si ce quart de finale se passe mal, plus ses attitudes répétées qui sont négatives, tout ce que vient de dire Hugo, moi je suis d'accord, c'est-à-dire que c'est un capitaine, tout ce qu'il démontre depuis quelques semaines, c'est vraiment pas l'attitude d'un capitaine. Donc je pense qu'il est en train de le faire, mais il y a peut-être une chance de s'en sortir avec la Ligue des Champions.
Ok, non, mais d'accord.
Je donne plutôt le point à Hugo.
Plutôt le point à Hugo. Yvan, Siani, Yvan, c'est quoi votre photographie? Donc, au moment où l'on parle, Yvan, il rate sa sortie. Enfin, il est en train de la rater.
Moi, j'ai toujours dit qu'il devait attendre la fin de la saison pour se prononcer sur la situation. Et il a des problèmes depuis qu'il y a eu la communication que c'était terminé avec PSG. Avec l'entraîneur, avec l'environnement, avec les médias, d'une manière générale. Parce qu'avant, il était épié, surveillé, contrôlé. Aujourd'hui, il est au microscope. Tout ce qu'il fait, tout ce qui bouge, les lèvres, les gens, l'attitude, la photo.
Il n'est pas trop au microscope, c'est lui qui non, c'est en avant quand même.
Je te dis pas qu'il a une bonne attitude ou qu'il fait les choses comme il faut et qu'on peut.
Quand il va dans les tribunes à Monaco, on n'est pas là au microscope, ça se voit, tout le monde le voit en fait.
Mais je dis juste que ces problèmes-là n'existaient pas avant. Ces problèmes, comme par hasard, ils existent aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un manque d'expérience de lui et de son entourage d'avoir communiqué trop tôt. Et aujourd'hui, il a ces problèmes-là.
Je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait sortir.
Sa famille, son entourage, son agent, sa mère qui fait son agent. Mais la finalité, s'il avait rien dit, s'il avait dit j'attends la Ligue des Champions, j'attends de voir si on va faire le triplé, le quadruplé, si on va tout gagner à PSG, et je donnerai ma décision après. On serait pas dans
les je pense que ça a fuité, que c'est pas eux. Parce que moi, j'ai eu l'impression qu'il y a eu quand même il a un peu la quinte contre le président.
Non, lui, le club a communiqué.
Non, lui,
toujours, le club a communiqué.
C'est ce que je dis.
Mais si le club a communiqué, c'est parce qu'il a parlé avec le club.
Oui, mais ça, on peut le mettre à son crédit d'avoir prévenu le club.
Et être honnête avec le club en disant j'ai pris ma décision, je m'en vais, mais par contre, on le garde entre nous. Mais et je pense que derrière, ça va sortir après.
Tu sais très bien que ça va sortir.
Ça va sortir. Oui, non, mais il a raison, là, Yvan.
On est pas donc on est dans un monde.
Il en a dit
au dernier moment, il aurait pu respecter. Non, mais t'es dans un monde où tu dis plus rien. Pour une fois, moi, je trouve que Mbappé a été honnête en disant pour préparer l'avenir, dire voilà, je m'en vais, j'ai décidé.
Mais c'est de l'inexpérience de cette situation-là, parce qu'il a jamais géré des situations comme ça. D'autres joueurs plus importants ont fait tirer jusqu'à la fin de la saison et n'ont pas eu ces problèmes-là. Il s'est mis tout seul dans le problème.
Siani, il est en train de la rater cette sortie pour des raisons peut-être expliquées par Yvan.
Hervé a parlé de ce qu'il avait apporté au PSG. Moi, je trouve que l'erreur qu'il a faite aussi, c'est qu'il n'a jamais su se mettre en dessous du club. Il a toujours paru plus important que le PSG et c'est très compliqué dans un club comme ça parce que finalement.
C'est lui ou le club
Il a laissé faire. Oui, mais je veux dire, il a pris la place qu'on lui a donnée. Enfin, n'importe qui l'aurait fait, mais c'est peut-être là l'erreur aussi, c'est que maintenant, au moment de son départ, là où Luis Enrique va en faire un joueur lambda, lui, il a du mal à l'accepter. Et effectivement, il y a toutes les bouderies qui découlent de tout ça. Donc pour moi, effectivement, s'il ne gagne pas la Ligue des Champions avec le PSG, je ne vois pas comment on pourrait parler d'une sortie réussie.
Oui, mais alors ça, c'est vrai que c'est un des éléments. Bon, il y a 30 secondes que j'allais mettre, parce que je sais que le débat dure.
Il faut vous débrouiller, faut ranger votre chambre. Vous avez 30 secondes, pas une de plus.
Mais ce qui se passe, la situation actuelle aussi d'Mbappé, depuis qu'il a annoncé en gros qu'il partait, ou en tout cas au club, j'ai regardé, en Ligue 1, il a joué à peu près 50 minutes de moyenne pour un joueur comme Kylian Mbappé. C'est-à-dire, c'est affolant.
Non, mais tu peux pas. C'est une relation. C'est marqué à l'écran, là.
Mais attendez, parce qu'il voulait avoir un petit truc. Les 51.
Donc, ça veut dire que quand vous parlez d'un joueur comme Mbappé, qui est l'équivalent à une époque, pour la France, pour le Paris Saint-Germain, de Messi à Barcelone, etc. Quand Luis Enrique est arrivé entraîneur du. Non, mais quand Luis Enrique est arrivé entraîneur de Barcelone, à un moment, il a voulu sortir. Messi.
Messi.
Il a le droit. Tu sors. Il est sur le bord de touche. Il a dit pardon. Je ne sors pas. Excuse-moi. Neymar, s'il te plaît, c'est toi qui vas sortir. Non. Non, mais ça veut dire. Oui, attends, l'impact d'Mbappé au Paris Saint-Germain, tu l'as dit toi-même, plus grand que le club. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné les clés. Lui, il prend les clés qu'on lui donne. Si à un moment, on lui dit attention. Eh, vas-y piano, il aurait fait comme tout le monde. Mais
comment tu peux décorréler ça du sportif en fait? Parce que les deux fois qui ont fait beaucoup parler, parce qu'il y a eu sa réaction derrière. Donc à la mi-temps à Monaco et dans le Classico, Mbappé était l'un des joueurs les plus mauvais.
Il voit les images de Monaco qui sont savoureuses.
Il était complètement à côté de son match. Mmh. Si Mbappé avait été bon dans ces matchs-là, je suis convaincu que Enrique ne l'aurait pas sorti. Ça a été des choix qu'il a fait. Il a pas fait ça pour l'humilier. Parce que pourquoi il lui donnerait le brassard? Pourquoi il le titulariserait dans ses grands matchs s'il voulait l'humilier?
C'est pas les deux premières fois il avait été mauvais dans un match. Il a déjà eu des saisons précédentes. Après, cette saison, il a déjà été mauvais et jamais il restait jusqu'à la fin.
Mais je dis bien que la situation est rentrée dans une normalité à partir du moment où on savait qu'il partait.
C'est pas normal avec un joueur comme ça.
Hugo, quand vous dites que c'est Luis Enrique qui donne le brassard, il s'en fout. Sur l'établissement du brassard, c'est une décision du vestiaire. Lui, Luis Enrique, il nous l'a dit en conférence de presse en début de saison. Le brassard, il s'en fiche, c'est pas lui qui décide.
Mais il n'a pas gagné les élections du vestiaire.
Mais c'est pas un argument. Mais
non, au-delà du brassard, Hugo a raison. C'est-à-dire qu'il est sorti parce qu'il n'est pas bon, en fait. Oui. S'il fait un grand match il sort, il joue jusqu'au bout du match.
Donc tu penses.
S'il fait un grand match contre, je ne sais plus quand il sort, à Monaco, il fait tout le match. Quand il n'est pas bon, il sort, point. Après, c'est vrai que là, depuis qu'il a annoncé, Luis Enrique a les mains libres. Et il gère Mbappé de la même manière que les autres.
Heureusement que Deschamps n'aurait pas fait ça en finale de Coupe du Monde.
On va revenir.
Mais je pense que Luis Enrique fait ça, et je pense qu'il y a d'autres entraîneurs qui ne le feraient pas. Ils le laisseraient même
s'il revenir au match.
Attendez juste, parce que j'ai Kylian Mbappé qui a été interrogé, on va dire, sur son manque de temps de jeu. Parce qu'on tourne autour du temps de jeu. Il a fait cette sortie en guise de punchline lors de son passage en équipe de France. Punchline, et puis après, justification de Kylian Mbappé.
Et moi, j'ai une question. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé?
Non,
mais alors, ce qui se passe en dehors, on s'en fout. Normalement, je suis concentré sur le prochain match. Voilà, je pense que on a vu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. J'ai gardé mon objectif qui était d'être performant. Et j'ai été performant dans les matchs qui comptent. Et mon objectif, là, c'est d'être performant dans les matchs qui comptent.
Est-ce que trois matchs plus tard, on peut se poser la question? Et moi, la question qui m'intéressait, c'est... il n'est pas bon depuis trois matchs d'affilée. C'est assez rare. Est-ce que vous avez une explication? Voilà.
Je n'ai pas d'explication rationnelle. Il a le droit, lui aussi, d'avoir des moments. Messi, à un moment, en avait. Ronaldo en avait. Il y a des moments où vous pouvez avoir des périodes moins bonnes. Pas beaucoup. Mais
à 25 ans, ils n'avaient pas ces problèmes.
À 25 ans, ils
n'étaient pas bons.
Quand je parlais de problèmes d'amnésie.
Sur un mois et demi, il y a eu Montpellier et les deux matchs au Real Sociedad.
On l'attend sur les matchs au Real Sociedad. Il qualifie l'équipe. On l'attend. Alors, tu
me suffit, ça te suffit.
Mais non, ça ne me suffit pas.
Je te demande.
En un mois et demi, il fait deux bons matchs,
ça te va.
D'accord, il faut qu'il pousse l'équipe du Paris Saint-Germain plus loin.
Et pour justifier ça, tu vas comparer avec des mecs qui, à 25 ans, ils ne faisaient pas ça.
Messi et Ronaldo, ils n'ont jamais eu des périodes de creux comme ça.
Messi et Ronaldo dans le même...
Non, mais dans l'attitude
Messi, il ne s'est jamais déconnecté du collectif.
Oui, mais Mbappé, il veut appartenir à cette caste de joueurs. On est obligé de les comparer à lui, on ne va pas les comparer à d'autres joueurs.
On le compare à Ronaldo, son modèle, si tu veux.
Ou à Messi, de toute façon, il veut être dans cette caste de joueurs. Donc, s'il veut l'être, on doit le comparer à ces joueurs-là et voir ce qu'ils ont fait dans leur carrière à 25 ans.
Mais personne ne sait pourquoi il est moins bien.
Peut-être que c'est dans la tête, mais peut-être que...
Il y a un peu de pression sur l'environnement autour de sa situation. Il voit qu'il se dit, si je rate trois contrôles ou que je fais deux mauvaises actions, le match va me sortir.
Tu crois qu'il est
dans un contexte différent?
Mais non, mais le mental qu'il a, ce joueur-là, il ne se pose pas cette question-là.
Combien de fois il a sauvé ses matchs sur trois actions où il n'y avait rien dans le match? C'était le premier à le dire.
Ou un pénalty.
Il sauvait
ses matchs depuis un an et demi.
Mais quand tu sors à la 55 ou à la 60, tu n'as plus l'occasion d'aller jusqu'à la 80. Hier soir, il le laisse sur le terrain. C'est lui qui va marquer.
Mais tu
vas faire un doublé.
Non, mais hier soir,
peut-être que Marseille égalise.
Ça va finir.
Bah, vas-y.
Hier soir, il marque un doublé. Tu as le même discours ce soir?
Oui, toujours. Avec l'attitude qu'il a eu hier.
Mais alors, il y a trois mois aussi.
Non, mais il y a un an, je disais la même chose. On me tombait tous dessus. Tout le monde me tombait dessus en me disant, ah ouais, mais c'est le plus important de marquer des buts.
L'attitude.
Moi, je te dis que ça fait.
Distingue l'attitude du résultat du terrain.
Oui, d'accord.
Il n'est pas bon sur le terrain, il le fait sortir.
Moi, je vais te répondre sur deux choses.
Combien de fois il était mauvais?
Je suis d'accord avec toi.
Combien de fois il a marqué à la fin du match?
Oui, je suis d'accord.
Sauvé son match.
Des pénalties, tout ça.
Et je veux pas mettre Messi. Et Messi, sur certains matchs, c'était pareil. Il faisait rien du match, il marquait. Et on parlait de rien. Donc, tu peux pas accepter pour certains joueurs des choses et pas pour d'autres. Après, sur l'attitude, ok, je suis d'accord avec toi.
Moi, Messi,
mais aujourd'hui, c'est un procès
d'intention.
On le regarde encore plus mauvais que ce qu'il est depuis l'histoire qu'il a communiqué.
Pas d'histoire de mauvais.
Mais il y a trois mois, quand on ne savait pas si c'était ou pas, on n'était pas dans le débat de « il doit sortir, on doit le sortir du terrain ».
Écoutez,
il sort quand même premier de la
moi,
classe.
Moi, Messi, à 25 ans, c'était pas cette attitude-là, c'était pas ce joueur-là, vous êtes sérieux, quoi. Moi, vous vous rappelez plus, Messi, à 25 ans, il éliminait tout le monde, tous les matchs, c'était tous les trois jours, il marquait, il était là.
Il Barcelone, bon, enfin, Messi avait pas
je sais pas, vous parlez de Messi, donc je voulais pas. Ronaldo, c'était exactement la même chose. Le mec marquait les matchs, à chaque fois, pas que par des buts, il marquait par son attitude. Moi, ça fait deux ans que je dis qu'à Mbappé, c'est plus le même joueur. À Mbappé, il y a deux ans, tout le monde avait peur de jouer contre lui, parce que c'était la foudre. Il prenait le ballon, tout le monde, même à l'époque, je me rappelle quand il y a eu le Bayern, on disait quand il était sur le terrain, pas sur le terrain, l'équipe joue différemment parce qu'ils ont peur. Aujourd'hui, c'est plus ça. Ça fait deux ans qu'il sauve ses matchs par les buts. Tu le dis, tout le monde te dit, ah, ça va, il marque les buts, ça suffit, patati, c'est
mais
plus important. Quand il marque pas,
la 60, quand,
ah, c'est
pour
parce
le contrat.
C'est parce qu'il joue que 50 minutes qu'il marque pas de but.
Est-ce que tu penses que sur un match comme hier, qui est typiquement un match pour lui, avec des ouvertures d'espace absolument incroyables, des comptes qu'il aurait pu
faire. Et là, tu fais sortir la 60e Riquet hier, tu joues à 10.
Il fait un choix tactique.
Donc pour moi, tu joues plus à 10 avec lui, tu joues à 9. Donc tu continues à jouer à 9, tout le match jusqu'à la fin, en risquant de te faire taper. Parce que normalement, pour moi, il y a un partout, hein, parce que le but, on en parlera peut-être un jour. Mais
On va en parler.
On en a parlé hier déjà, bon, enfin. Mais si t'as un partout, c'est plus le même match. Bon, enfin. Et donc, Luis Enrique, lui, sur le terrain, il voit ça. Quoi, sur le banc, il voit ça. C'est comme dit Hugo, c'est pas pour humilier Mbappé de le sortir. C'est que tu joues à 10. Mais tu sais que tu joues à 9, en fait. Non, parce que lui, il ne défend pas, en fait.
Joanne, il ne sort pas que Mbappé.
Que de l'attaque.
Il sort en même temps.
Et
Mbappé,
Dembélé. Donc, c'est le choix tactique.
Parce qu'il veut changer le visage de son équipe. Il veut cacher le ballon. Et d'ailleurs, il fait rentrer Lee Kang-in. Il fait rentrer Asensio. Il fait rentrer Gonzalo Ramos. Et là, le PSG a eu une maîtrise où ils n'ont plus été inquiétés. Il y a des joueurs qui se sont placés dans les interlignes. On avait l'impression qu'en fait, c'était eux qui étaient en supériorité.
Ils n'ont plus été inquiétés, sauf que Donnarumma doit faire au moins 4 arrêts dans les 15 dernières minutes, quoi.
Et il marque sur un but en contre. Alors qu'ils n'ont plus les joueurs supposés pour jouer les contres, ils marquent sur un but en contre.
La manière dont était positionnée l'équipe de Marseille ce moment-là, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, les gens sont hyper durs avec Mbappé. Enfin, nous, on est hyper durs avec Mbappé.
Je ne veux pas passer pour le mec qui serait un fan absolu de dire ce qu'on voit, c'est être dur avec lui.
Non, j'ai pas dit dire ce qu'on voit.
Ce qui n'était pas normal, c'est quand tu ne fais rien depuis deux ans. En fait, ça c'est pas normal.
Dire qu'il ne fait rien depuis, enfin rien entre guillemets. C'est pas ce que tu as dit complètement.
Non, je dis
qu'il a c'est depuis deux ans. Ah non, mais moi je parle pas. L'attitude, on peut en discuter, je suis tout à fait d'accord. Et je veux pas dire, je suis un fan absolu, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mettre la photo sur Twitter, on
mais
le voit
d'un autre. C'est pour ça qu'on est
dur. Ça, je comprends ta fait. Mais en revanche, sur le terrain, toi, quand tu me dis, il ne fait que marquer des buts, ça sauve ses matchs. Mais c'est déjà ça. Guardiola, l'autre jour, il parlait d'Haaland parce qu'Haaland n'avait pas marqué pendant trois matchs.
Quand quelqu'un lui. Pas du même joueur, là.
Non, mais je répète ce que dit Guardiola. Guardiola, qu'est-ce qu'il fait l'autre jour? Après les trois matchs, quand on lui pose la question, on dit, ça allait mieux. Haaland, il dit, mais Haaland, quand il marque. Vous savez, vous dites ça tout de suite. Parce qu'à un moment, c'est un buteur. Et donc, quand il marque, il a fait la part de son boulot, d'une certaine manière.
Non, mais je minimise pas le fait que Mbappé marque en souvent ses matchs. Mais c'est le cas. Et il y a deux ans, c'était pas le cas. Donc le joueur a changé. Haaland, ses caractéristiques, c'était vraiment un buteur. Donc forcément, tu t'attends à ce qu'il mette des buts. Il met moins des buts, c'est un peu gênant. Mbappé, moi, je trouve que dans le jeu, il y avait quelque chose d'autre avant. Là, aujourd'hui, je ne le vois plus. Si tu dis ça, tu n'aimes pas Mbappé.
Mais je ne dis pas que tu n'aimes pas Mbappé.
En fait, c'est-à-dire que depuis qu'il a commencé sa carrière, on lui laisse tout passer. Tout. Il peut dire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut, on va toujours trouver une excuse. Mais c'est pas ça, faire progresser un mec.
Là, tu as raison.
Il tape dessus, mais
pourquoi pas réagir. Simplement, il lui a pas tapé dessus avant le mois de janvier, quand il a su qu'il était parti.
C'est ça qui est pas mal. Non, mais c'est ça qui est dérangeant, en fait.
Oui, il avait mis des mains. Mais moi, je te dis qu'il y a d'autres entraîneurs, là, aujourd'hui, même en sachant ça, ils le laisseraient sur le terrain.
Romain, une superstar éreintée par un consultant, ça s'est passé ce week-end. On parle pas de Mbappé, on a parlé de quelqu'un, là, qui est évoqué.
Bah oui, de Erling Haaland, parce qu'on va dire qu'il est un petit peu moins bien en termes de statistiques en 2024, même si tout est relatif dans le cas d'Erling Haaland. Et il s'est fait détruire, c'est le cas de le dire, par Roy Keane, l'ancien joueur de Manchester United notamment. Le niveau de son jeu en général est très faible, et pas seulement aujourd'hui. Je pense que ses attaques générales, ses têtes et sa finition sont les meilleures du monde, mais son jeu en général pour un tel joueur est si mauvais, il est presque comme un joueur de 4ème division.
C'est Roy Keane.
Comme quoi on n'est pas si méchant.
C'est ce que va vivre Mbappé à l'étranger.
Comme sur le terrain.
Il faut qu'il se prépare Mbappé, parce que là en France il était couvert, tout le monde le couvait, dès qu'il fait un truc. En France, il n'est pas protégé en France. Vous êtes sérieux? Moi, dès qu'on dit un truc sur lui, de suite, tu te fais massacrer de partout.
Ah non.
Qui? Mais en ce moment,
il mais non, mais y a quasiment plus personne qui le
dévoue. Sur ce que tu vois, sans dire que c'est un naze, je dis que c'est un super joueur, mais que de temps en temps.
Mais aujourd'hui, il en prend.
Non, mais il est clivant sur ce plateau.
Non, parce que là, tout le monde, non, mais tout le monde sur ce plateau suit la vague. Tu sais très bien.
Mais même les supporters du PSG,
qui marquent pas, on suit la vague dans ce sens-là. Mais t'as vu là ce qu'il vient de dire là? Eh bien là, s'il part au Real, hein, tu vas voir, s'il fait 2-3 bons matchs comme on voit là, ben on verra ce qu'il va
faire. Tu dis qu'il a changé depuis deux
même
ans.
Ronaldo s'est fait frapper et se taper dessus, même Benzema, alors que les joueurs que ça a été, et du coup l'état d'esprit qu'ils avaient, ils se sont fait déglinguer. Quand il faisait 2-3 matchs,
la petite différence, c'est que les anciens joueurs sur les chaînes anglaises, ils te mettent des cartons que mettent un petit peu moins.
En Espagne aussi, pareil, en Italie, en Allemagne, tu crois qu'ils font quoi?
Un peu moins. Si Annie demande l'audience auprès de sa présidence, s'il vous plaît.
Toutes les émissions comme ça?
Toutes.
Étrangères,
ça fait en Italie.
Je demande l'audience auprès de sa présidence.
Deux minutes pour Annie.
Non, j'ai pas besoin de tout ça. Non, parce que tu parlais du fait qu'il ait changé depuis 2 ans dans sa manière de jouer, mais même si on peut penser que c'est un joueur assez individualiste, tu penses pas que ça vient aussi du fait qu'il jouait peut-être dans une équipe qui évoluait différemment. Il y a eu des changements de coach au PSG assez fréquents, avec Galtier, là, avec Luis Enrique. Il faut s'adapter à ça. Lui, ce qu'il sait faire, c'est marquer. Mais après, dans le jeu, il y a aussi ce qu'exigeaient ses entraîneurs. Et ça a peut-être joué aussi sur sa façon de jouer. Il est peut-être tombé sur le coach qui voulait le faire évoluer, qui voulait le faire progresser, comme toi, tu aurais aimé qu'il le fasse. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte, malgré tout.
Mais pourquoi
c'est pas une excuse.
C'est vrai qu'en équipe de France, il a changé de coach.
Mais en équipe de France,
pour moi, il marque, c'est tout.
On peut. Non mais attendez.
Moi qui regarde les matchs, je sais pas. Bon, la Coupe du Monde, il a été magnifique.
Non mais Joanne,
Coupe du Monde, il a été magnifique.
Mais contre la Pologne,
il était il a été magnifique. Il était extraordinaire dans le jeu. Je sais pas. Dites-moi. Pour moi, le meilleur joueur de l'équipe de France, c'est Griezmann. Mais dans le jeu, on l'a pas vu.
Mais si, d'accord. Griezmann, il n'était pas tout seul.
Tu peux pas découvrir. 2018, je l'ai vu dans le jeu. J'ai vu la différence dans le jeu en 2018.
Oui, mais un joueur, c'est
les différences qu'il pouvait faire. Eh ben moi, en 2022, je suis pas vu ça.
Est-ce que l'équipe de France jouait de la même manière en 2018 et en 2022?
Ah, donc c'est l'équipe de France qui a changé.
Non, mais
tu
ne peux pas décorréler.
Non, mais tu ne peux pas décorréler. Il faut qu'il s'adapte à plein de trucs.
Non, mais tu ne peux pas décorréler son jeu et ses buts.
C'est un beau match qui marque.
Moi, je vois plus le. Oui, mais Haaland, c'est son style de jeu.
Exactement.
Moi, pour moi, vous voyez, tu vois, putain, regardez les matchs il y a 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans de Mbappé, c'était pas les mêmes matchs, quoi.
Mais il a jamais été dans la distribution à faire.
Non, mais je parle pas de distribution, mais par contre, il prenait la balle, il partait, il la profondeur, ça dribblait, ça partait.
Ouais. Mais au-delà de tout ça, parce qu'on est tous d'accord. Non, mais on est tous d'accord.
On est d'accord avec ça.
On est tous d'accord pour dire que c'est un joueur en
norme. Il passe comme ça, en fait.
Et pour dire que son jeu a peut-être évolué. Mais est-ce qu'on se rappelle pourquoi on parle de lui ce soir? Parce que hier.
Son attitude.
Voilà. Hier, s'il met une photo du vestiaire en disant bravo pour le classique, encore un classique dans la poche, bravo l'équipe. Mais on fait zéro débat Mbappé ce soir. Donc ce soir, on fait un débat. Parce que.
On
aurait trouvé.
Mais en fait, il a eu cette manière de privatiser le Classico. Et en fait, sa réaction, elle montre que pour lui, c'est plus important et c'est plus grave le fait d'être sorti à la 64e minute.
C'est pas la première fois, Hugo.
Dans un match qui le surpasse en tout point.
Il a été créé comme ça, il a été façonné pour avoir ce tempérament depuis déjà 15 ans. Donc, Ronaldo,
il va faire du golf alors, il va faire du ping-pong, du tennis.
Alors, Ronaldo, c'est pas un joueur. Ronaldo,
c'est pas
un. Non, mais Ronaldo, c'est quoi qui est le Real Madrid?
Ronaldo, c'est le seul joueur qui est dans la même attitude.
Alors, quand je t'ai raconté l'anecdote de Messi, tu trouves que c'est pas la même attitude?
C'était laquelle?
Je t'ai dit que l'autre, il veut le sortir, il dit non, je veux pas sortir. Tu trouves ça normal ou pas? Je te pose, parce que là, c'est même pas une attitude hors terrain, c'est une attitude terrain.
Ah, il a dit non, je sors pas, mais je sais pas.
Ah, bah, visiblement,
je me souviens qu'il y avait une histoire quand il avait mis sur le banc, mais là, de
me dire. Non, il a eu aussi des problèmes avec d'autres. Mais je parle pas de Luis Enrique, c'est pas le débat avec Luis Enrique. Simplement, Kylian Mbappé, c'est quelqu'un qui était façonné comme ça.
D'accord, donc comment voulez-vous du jour au lendemain? Du coup, maintenant, on doit l'accepter.
C'est pas qu'on doit l'accepter, c'est faut faire avec d'une certaine
manière. On doit accepter que
donc les gros joueurs, les joueurs de ce calibre-là, malheureusement qu'on a. Non, pas tous, pas tous.
C'est pas vrai.
Mais les mecs que t'as monté sur un piédestal à qui t'as donné toutes les clés comme ils l'ont fait au PSG.
Mais ça, c'est pas vrai. Ah bon? Mais à chaque fois, j'entends ça, on me dit Mbappé, c'est tous les grands joueurs.
Cruyff, il était comme ça?
Mais tu les Galactiques. Cruyff, les Galactiques, tu crois qu'au Real Madrid, les Galactiques, ils étaient comme ça? Tu crois que Zidane, il est comme ça? Zidane, c'est un joueur d'équipe, un joueur collectif. Tu crois que Beckham, il est comme ça?
Platini.
Tu crois que... Comment il s'appelle?
C'est une autre époque. C'est une autre époque. Aujourd'hui, c'est l'époque des réseaux sociaux. C'est l'époque... Non, mais c'est important.
Mais Haaland, tu crois qu'il est comme ça? Il fait que des trucs sur lui, il pense qu'à lui.
Mais quand tu as Kylian Mbappé, est-ce que tu penses que toi, Kylian Mbappé, il a été créé comme ça depuis qu'il a 12, 13 ans? C'est une espèce de robot. Non, mais lui, il est comme ça. Non, mais ils sont pas tous. Il a ce niveau-là, pourquoi? Parce qu'il est comme ça. Si tu veux, t'as une pièce, t'as deux faces.
Mais c'est pas vrai.
Ah, tu penses que s'il n'avait pas ce tempérament, cette mentalité, cette manière de faire, de calculer.
Il pourrait être le même joueur. Pourquoi il serait pas le même joueur?
Ah, tu penses qu'il serait le même joueur?
Bah, Ronaldo, le Brésilien, était comme ça aussi. Pourtant, c'était un joueur fantastique, non? Mais il pensait pas qu'à lui, pas à tirer la couverture à lui.
Mais il avait
donc tous les grands joueurs ne sont pas comme ça. Il y en a très très peu pour moi.
Lui, il a été créé comme ça. Je pense qu'il arrive à être Mbappé.
Donc, il est créé comme ça. Moi, j'ai le droit de dire que ça me
fait. Mais heureusement que tu as le droit de le dire. Mais qui va t'en empêcher? C'est pour ça qu'on fait des débats.
C'est un scandale dans un sport collectif de voir un mec avoir une attitude comme ça. Et c'est constamment. Quand ça se passait bien l'an dernier, je veux plus jouer en pivot, tout ça. Les pénalties, c'est moi qui dois les tirer. Mais tout non-stop, c'est. Le brassard, si tu lui donnes pas en équipe de France. Mais c'est un bordel terrible. Mais les mecs, ils le savent. Donc, en fait, comme tu dis, bah, il est comme ça, il faut accepter. Mais moi, je trouve pas.
De prise de recul.
Et là, Enrique, il l'accepte pas.
Un élément de prise
il
de recul.
Il se fait taper dessus, Enrique.
Kylian Mbappé et son club, le Paris Saint-Germain. Ça a rarement été fluide entre la star et son club. Petit rappel, lors du dernier épisode de l'équipe enquête, c'était l'été dernier. Regardez ce beau résumé.
Mis à l'écart, Kylian Mbappé s'entraîne à Poissy avec les autres joueurs dont ne veut plus Paris. En public, il s'amuse à afficher un visage détendu et souriant à la sortie des entraînements. Mais en privé, il rumine sa colère, son entourage également.
Là, ils étaient fâchés.
Ah ouais. Bah oui. Il y avait quoi?
Dans l'esprit du clan Mbappé, il est hors de question de céder au chantage des dirigeants parisiens. Rien n'oblige le joueur à prolonger et il n'a jamais promis de ne pas partir libre. Pendant ce temps, le PSG fait passer des messages sur la supposée absence de reconnaissance de l'attaquant français. L'année précédente, Mbappé avait accepté de poser avec un maillot floqué 2025. Mais à ses yeux, il avait rendu un service à ses dirigeants, qui négociaient alors des accords avec plusieurs sponsors. L'épreuve de force est engagée. Début août, un clash oppose Mbappé à El Khalaifi. Ce dernier le menace de l'empêcher de jouer durant toute la saison. Mbappé hausse le ton. La tension n'a jamais été aussi forte. Paris veut l'envoyer en Arabie Saoudite. Lui n'y pense pas la moindre seconde. Tous les scénarios sont examinés. L'entourage du joueur contacte des avocats dans l'idée d'obliger Paris à le réintégrer après le 31 août. Pour le premier match de la saison face à Lorient, le PSG concède un résultat nul au Parc des Princes. Mais dans les tribunes, Kylian Mbappé s'affiche, souriant et blagueur, aux côtés de son ami Ousmane Dembélé, qui vient d'être recruté par le club francilien. Au cours des dernières heures, le dialogue a repris entre les deux parties et un accord de principe a été trouvé. Mbappé refuse toujours de lever son option d'achat. Mais s'il part libre en juin 2024, il renoncera à plus de 100 millions d'euros bruts de diverses primes. À ce tarif, il est redevenu formidable.
Un joli commentaire. Si Kylian Mbappé rate sa sortie, en train de rater ça, est-ce que, comme grille de lecture, il faut mettre ses relations à dire compliqué avec son club.
Moi, je veux dire, après je laisse parler. Ouais. Moi, je suis à 200% d'accord avec lui.
Avec Kylian.
Ah, bien sûr, il a le droit de faire ce qu'il veut quand même.
Mais oui.
Le joueur n'a pas la politique du club, tu veux dire.
Il a le droit de. Il signe 2 ans. Mais là, après, il aide le club pour faire style des sponsors, tout ça. Mais après, c'est son choix. S'il n'a pas envie de signer, il n'a pas envie de signer. C'est la faute du PSG de ne pas l'avoir fait signer 4-5 ans. Maintenant, moi, je suis à 200% d'accord avec lui. Ouais. S'il ne veut pas signer.
Le PSG a une gestion catastrophique.
Ouais. Oui, mais là, on est là en ratage de sortie. Vous qui ficelez les contrats, des choses comme ça, est-ce que c'est aussi intéressant comme grille de lecture pour répondre à notre.
Celui-là, ça ira. Sa mère s'en occupe bien vite.
Il ne viendrait pas prendre les pigeons.
Mais au final, quand tu t'aperçois du niveau de relation où ils sont arrivés, c'est-à-dire on te met à l'écart, tu ne t'entraînes plus, tu reviens, tu dois marquer, tu dois jouer, puis tu recommences encore, tu veux prolonger, pas prolonger, si tu ne prolonges pas, etc. tu l'as vécu, Jo, ici, les gens ne savent pas ce que c'est, mais quand tu es au quotidien, tu arrives à l'entraînement, que tu sais qu'on va te dire, alors le contrat, tu vas le signer ou pas? Tu l'as vécu.
Non, pas forcément.
Peut-être qu'on ne voulait pas te prolonger chaque année. Lui, il disait en allemand, il ne comprenait pas.
Un joueur de ce niveau-là,
enfin, il peut le comprendre.
C'est lourd, c'est pesant. Donc il y a un moment aussi où...
Non, mais en début d'année, ça s'est passé en début de saison.
Déjà, ce que je dis toujours, il faut de l'expérience pour gérer ces situations-là. Là, c'est la famille, magnifique, on s'aime, mais il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de connaissances, ce n'est pas leur métier. Mmh. Et après, lui, ben, il se retrouve au milieu de tout ça, avec une pression incroyable. Et aujourd'hui, tu as un entraîneur, comme tu dis, qui était tenu jusqu'à maintenant parce qu'ils attendaient la décision. S'il avait fait tenir jusqu'à juin, il aurait été tenu jusqu'à juin, l'entraîneur. Là, maintenant, ben, il fait ce qu'il veut. Et s'il a envie de le sortir ou de ne pas le mettre, il ne le met pas.
Il ne peut rien faire.
Il est en train de rater sa sortie, c'est un oui hein, pour l'instant. C'est 76 à 24.
Il n'est pas apprécié, on se comprend.
Mais moi, je l'apprécie, c'est pas une question de l'apprécier.
Non, mais il fait rien pour, en fait.
Parce que moi, je l'apprécie, Mbappé. Je l'apprécie, mais je...
Ah bah, si tu l'appréciais pas.
Quelques minutes.
Je ne cautionne pas ce comportement.
Dans quelques minutes, on refait le classico. L'arbitre s'explique, puisque Benoît Bastien est venu chez nos confrères de Prime Video pour justifier deux décisions qui vont nous faire parler et... vous faire parler et regarder l'équipe du soir. A tout de suite. L'équipe du soir, c'est reparti. Je ne vous cache pas qu'à la pause, c'était tendu, mais c'était bien. C'était bien. C'était bien.
Dans la pause.
Yvan Lemay, Hugo Guimer, Hervé Penaud, Cyril Alma, le président qui ne manque pas de punch, sinon d'élégance, mais de punch ce soir. Et l'arbitre s'explique. Encore un week-end où les décisions arbitrales ont été incomprises. Hier, lors d'OM Paris Saint-Germain, Benoît Bastien a expulsé Beraldo, le Parisien, a annulé le but du Marseillais Jordan Veretout. Mais. Une fois n'est pas coutume, l'arbitre est venu expliquer ses décisions après la rencontre chez nos confrères de Prime Video. Extrait numéro 1, l'expulsion de Beraldo à la 40e minute. L'arbitre voit l'annulation d'une occasion de but. Premier extrait.
Je suis alerté dans un premier temps par mon arbitre assistant. La capacité pour moi qu'a le joueur offensif à pouvoir continuer l'action, maîtriser le ballon et l'absence de défenseur en capacité d'intervenir sont les critères qui permettent de dire qu'il y a une occasion nette de but qui a été stoppée par l'intervention illicite de M. Beraldo.
Ok, extrait numéro 2, l'invalidation du but de Jordan Veretout à la 58e minute. Le Marseillais Luis Enrique gêne Gianluigi Donnarumma, donc il fait action de jeu. Benoît Bastien, numéro 2.
Il est en position de hors-jeu et de par sa très grande proximité avec le gardien de but, il influence forcément sa capacité à pouvoir intervenir.
Benoît Bastien justifie ses décisions après la rencontre. Est-ce un exercice finalement utile? Il n'a pas dit utile, il a dit très utile. Hervé Penaud, on vous laisse tranquillement vous expliquer. Vous avez une minute pour nous convaincre. On baisse un peu l'intensité lumineuse. Le compte à rebours, je regarde, est activé. Silence, Hervé parle.
Oui, alors là, sur ce plateau, ici même, on s'est souvent moqué des arbitres qui ne parlaient jamais, enfin, de la direction arbitrale qui empêchait les arbitres de s'exprimer. C'était le monde du silence, de l'opacité, donc on savait absolument rien. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un arbitre et d'autres arbitres, et même le directeur de l'arbitrage, qui s'expriment, qui donnent leur point de vue et qui donnent des clés pour comprendre les décisions qu'ils ont pu avoir à prendre. Alors attention, s'expliquer, ça n'empêche pas des désaccords. Et c'est ce qui se passe parce qu'on sait que tout le monde n'est pas d'accord avec les décisions qu'a prises l'arbitre. Mais en tout cas, ça tait un peu certaines passions et certaines tensions. J'en veux pour preuve, pour moi, l'exemple type, c'est le match de ce week-end à Lorient, où il y a effectivement une décision arbitrale aussi qui a posé problème, avec un pénalty qui était non sifflé. Les Lorientais sont pleins, notamment Ferry, le président. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il y a cette légère main. Après, il y a des énervements sur le bord de touche. Et ce qu'on ne sait pas, et ce qu'explique Anthony Gauthier, le directeur de l'arbitrage, dans le journal L'Équipe, c'est qu'il dit qu'en fait, l'arbitre a décidé d'aller voir le VAR par lui-même, parce qu'il s'est rendu compte que pour apaiser les tensions, il valait mieux aller la voir. Et donc voilà, on a une utilisation parfaite de la VAR. Donc c'est parfait quand les arbitres peuvent s'expliquer et donner des clés. Pour comprendre.
Hervé Penaud, apôtre de la transparence, de la communication, il faut se parler, même si on n'est pas d'accord. Vous êtes-il convaincu, ce cher Hervé? Vous allez évidemment sur le site L'Équipe et vous allez vous mettre au centre de l'arène. Je sais que ce n'est pas votre forme d'être mis en valeur
ça.
Comme ça, mais
je
oui,
déteste
voilà.
Ça.
Cyril Dalma, est-ce qu'il vous a convaincu, notre Hervé, ou pas?
Il est excellent.
Il est excellent, convaincu. Au visage grave et noir, l'œil noir d'Hugo Guimet, convaincu ou pas par Hervé? Oui ou non?
Malheureusement pour Hervé, je suis d'accord avec lui sur le fond, mais. Sur la forme, je suis absolument pas convaincu
sur la
par ce qu'a fait M. Bastien.
Ok, très bien. Monsieur le Marquis, Monsieur Yvan, convaincu par ce qu'il a dit?
J'ai rien contre Hervé, mais
ça commence mal.
J'ai rien contre Hervé. J'ai rien contre Hervé. On va
l'arbitre.
Et vous, Jo. Là, on va aller voir Hervé.
Moi, je suis d'accord que l'arbitre vienne. Après, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a eu un échange avec le journaliste sur le plateau ou c'est juste il est venu dire ça. Merci, au revoir.
Mais l'arbitre vient s'enfoncer.
Il est venu se
s'enfoncer dans la situation.
D'accord ou pas, mais
c'est ça qui est malheureux.
C'est terrible.
Excusez-moi, mais je vais reprendre le sillon tracé par Yvan.
J'ai senti que vous vouliez me mettre aussi une mine.
Non, vous louez la transparence et tout ça, mais qui parle pas, qui est machin. Quand tu prends une mauvaise décision, qu'il l'explique, qu'il l'explique pas. En fait, on a compris pourquoi il avait pris.
Pas toujours.
Mais la transparence, ça aurait été d'expliquer pourquoi il s'est trompé. C'est ça la transparence qu'on attend des arbitres.
Parce que là, donc toi tu parles du principe que lui a tort. Quoi.
Mais c'est catastrophique ce qui se passe, Hervé. Parce que sur la première action, oui. Il oublie de mettre le jaune à Beraldo. Mm. Et c'est ça qui aurait dû provoquer l'expulsion de Beraldo. Et donc il est alerté par le VAR. Et ensuite,
par son arbitre assistant, voilà, qui bouge le drapeau comme ça. Et après.
Oui, mais là il met pas jaune.
Non, rien.
Et ensuite il va voir le VAR. Et là il décide de mettre rouge parce qu'il se rend compte qu'il aurait dû mettre un second jaune. Sauf qu'il ne peut pas mettre un jaune après être allé voir le VAR. Il ne peut mettre qu'un rouge direct. Et donc, comme il fait ça, il expulse pour annihilation de but. Donc, parce que c'est la seule cause qu'il peut dire pour mettre un rouge. Sauf que c'est du jamais vu, annihilation de but, à 70 mètres du but. Saïd Njimi l'a dit.
Hervé,
et 45. Ça, c'est que pour la première. Prends la diagonale.
Attendez, Hervé.
J'ai pas pris encore.
Beraldo expulsé. Vous avez écouté donc Benoît Bastien. Donc, vous, finalement, Hervé, c'est logique qu'il soit expulsé ?
Non. Je ne trouve pas que ce soit logique un rouge direct. Certainement.
Donc après, il vient se moquer de toi, il est content.
La question, ce n'est pas de savoir a-t-il raison ou a-t-il tort d'avoir pris ses décisions, mais a-t-il raison de l'expliquer ? Oui. C'est ça, moi, qui m'intéresse.
Comment tu peux expliquer une décision ridicule ?
Parce que toi, tu pars du principe que la décision est ridicule. Mais il y a d'autres gens qui trouvent que c'est normal, et donc, d'une certaine manière.
On n'en trouve pas beaucoup. Sur le plateau, il y a quelqu'un qui pense que Beraldo aurait dû être expulsé ?
Non, il aurait dû avoir un deuxième jaune.
Non, mais avec un deuxième jaune.
Mais non, mais voir rien, je ne prends jamais jaune là-dessus.
On voit rien.
Prendre jaune là-dessus, non.
C'est la réalité, c'est ça.
Oui, moi je suis d'accord avec vous. Moi aussi, rouge direct.
Et de la même manière, le but qui refusait à l'OM, où il dérange.
Non, mais dans l'explication, c'est vrai que la faute n'est pas très violente, mais elle empêche Aubameyang de continuer. Et s'il continue, il va se retrouver face à Donnarumma. Je suis d'accord.
Donc,
l'explication, pour moi, elle tient la route, même si je trouve que c'est très sévère. D'accord. Mettre un rouge direct sur le fait.
Et sur la deuxième action.
C'est sur le côté.
Donc, ça y est, il a convaincu un homme. Bravo.
Non, mais quand tu vois l'action, s'il passe. Il y a personne.
Il y a Hernandez qui revient, qui a moins de chemin à faire.
Non, mais si t'as Danilo qui est à une quinzaine de mètres, je dis pour revenir. Mais là, il a 45 mètres de l'autre côté.
Mais la faute de base,
il y a une raison de siffler pour vous.
Donc vous
vous le comprenez.
Moi, je pense qu'il doit mettre un deuxième jaune. Oui, mais après le rouge, il peut se comprendre. Ok. Après, je dis pas que c'est catastrophique.
Alors sur Vertu, sur le but Vertu à la 58e minute, là, le fait que Luis Enrique fasse action de jeu, vous, quelle est votre position? C'est l'explication fournie par Benoît Bastien.
Pour moi, ils sont restés sur le règlement. Le hors-jeu, effectivement, il est hors-jeu parce qu'il est. Et ils sont restés règlement. Hors-jeu, faute.
Non, ils sont même pas.
Mais pour moi, la réaction du gardien.
Le règlement peut s'afficher, s'il vous plaît.
Pour moi, la réaction du gardien, elle est très importante dans cette situation-là. Parce que tu vois, c'est un réflexe. C'est-à-dire que tu vois de suite si le gardien il a été gêné ou pas. Et pour moi, il n'a pas été gêné parce qu'il ne va pas voir l'arbitre. Il ne râle pas après personne. Il est dépité parce qu'il vient de prendre un but. Et pour moi, Luis Enrique n'est pas du tout entre la frappe de Vertu et Donnarumma. Et ensuite, pour finir, la balle est inarrêtable pour Donnarumma. Donc, pour moi, le but aurait dû être accepté.
Un joueur en position de hors-jeu au moment où le ballon est passé ou touché par un coéquipier doit être sanctionné uniquement lorsqu'il commence à prendre une part active au jeu en interférant avec un adversaire, tournant la page car il empêche un adversaire de jouer, donc en l'occurrence Donnarumma, ou d'être en position de jouer le ballon, en l'occurrence toujours Donnarumma, en entravant clairement son champ de vision.
Donc, clairement.
Donc,
ça a un sens quand même.
Monsieur Bastien, il le sait, il connaît l'article 11.2.
Oui.
Voilà. Donc, il est venu se moquer de nous à la télé pour justifier son erreur, pour justifier sa décision, pour justifier que c'était une bonne décision, alors que c'était une mauvaise décision. Parce que Luis Enrique, on le voit sur les images, et lui, il peut les voir aussi, les images. Il n'est pas du tout, à aucun moment...
Il n'est pas allé les voir, d'ailleurs.
À aucun moment, il est dans le champ de vision. Oui, mais une fois qu'il parle au micro de Prime, il a revu l'action. À aucun moment... le ballon n'est masqué par Luis Enrique. Donnarumma, il le voit du début à la fin.
Non, il n'est pas dérangé donc, sur toute l'action.
Donc,
plus, hein,
il a parce pas. Mais t'as dit, il applique le règlement. Il n'a pas appliqué le règlement.
Il applique le règlement pour dire hors-jeu.
Pardon, mais quand Benoît Bastien arrive, c'est quasiment, on va dire, une première. Voilà, enfin, c'est assez rare qu'un arbitre arrive comme ça en direct à la télévision. Est-ce que là, comme c'est une première, l'idée de dire, bon, bah, tiens, sur la deuxième, je me suis trompé.
C'est pas la première.
Oui, vous l'auriez.
Non, mais c'est pas la première.
Et deux, moi, j'aurais aimé qu'il y ait un échange avec ceux qui étaient là.
Ah, mais il faut qu'il y ait un échange.
Tu vois, sur le plateau,
il n'y avait pas d'échange.
Ah, moi, j'ai pas vu l'extrait.
Je l'ai vu, il n'y avait pas eu d'échange. J'étais là pour recueillir les informations.
Ce que je trouve assez étonnant, c'est que nous, on est journalistes. Et c'est capital de recueillir la parole de l'arbitre. Alors, après, c'est mieux quand il y a dialogue, évidemment. Il faut échange, il faut pouvoir lui dire, mais vous ne trouvez pas qu'il n'était pas en difficulté, il n'a pas bloqué le champ de vision, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Ce qui m'étonne, moi, quand regardait bien les images, un des premiers gestes de Donnarumma, c'est d'aller mettre la main sur Luis Enrique et de montrer Luis Enrique.
Non,
et,
non, tu vois qu'il fait ça, il se retourne après, la suite, en fait, il fait ça et puis il se retourne dans sa cage en disant on vient d'encaisser un but. Si t'as un truc, tu pousses Enrique, tu vas voir l'arbitre, tu dis imaginez, il m'a empêché de voir le
Enrique, il y a absolument rien. Parce que il y a l'image, on voit pas, mais après on voit l'image des Parisiens.
Pardon, mais Jérôme Alonso hier sur Prime Video, lui a bien regardé le comportement de Gianluigi Donnarumma, partageait plutôt la lecture de Gianluigi en disant. Il avait finalement accepté de prendre le but.
D'accord.
Moi, je suis gardien. Parfois, j'ai gueulé. En général, on gueule et on veut s'y faire, même lorsqu'on est un peu en tort. Là, dans l'attitude de Gianluigi Donnarumma, il avait pris ce but.
D'accord.
Voilà, il
n'est pas. Donc, c'est pas il veut bien croire Alonso parce qu'il a.
Non, non, c'est Jérôme.
Moi, non. Absolument. Jérôme, tu le crois, mais moi, non.
Là, en fait, Jérôme, je crois qu'à moitié. Donc, je suis finalement pas sûr.
Mais en fait, il n'y a rien de plus insupportable, Hervé, et c'est pour ça que ça agace ce truc, que quelqu'un qui communique. Pour nier une évidence que tout le monde voit. Parce que si c'était sujet à interprétation, là, on pourrait débattre et on pourrait discuter de ça avec M. Bastien.
Non, mais c'est sujet à interprétation.
Non, parce que.
Ah bah si.
Ben non, parce que c'est factuel. Là on voit.
Mais qu'est-ce qui est factuel? Il est bien à côté du gardien. Tu peux estimer. Tu
non,
peux estimer
qu'il bouge. Mais non, tu ne peux pas l'estimer quand tu vois la trajectoire du ballon.
Mais oui, parce que toi, tu vois la trajectoire du ballon.
Mais le problème n'est pas là. Ensuite, il la voit.
Non, mais le problème, c'est pas de savoir ce que va faire le ballon d'une certaine manière. C'est savoir si au moment où le ballon va partir, tu peux être gêné par un joueur. Après, que tu ailles à droite, que tu ailles à gauche.
Mais c'est ce que dit Hugo. C'est-à-dire qu'il est jamais gêné, en fait.
Il est jamais gêné.
Oui, mais quand alors c'est pour ça qu'Alonso, c'est intéressant, parce que si lui, il a eu l'habitude de ce genre de situation, donc je préférais à ce qu'il a dit. Mais en revanche, le fait que t'es un joueur juste à tes côtés alors que t'es gardien de but, tu peux pas me dire que son œil ne le voit pas.
Tu insistes, Hervé.
Alonso, je retire ce que j'ai dit.
Romain, adepte de la transparence, Hervé Penaud, de l'échange constructif.
Bien sûr.
Il a nommé d'ailleurs le président Loïc Ferry hier lors du derby breton entre Lorient et Brest. Loïc Ferry veut aller encore un peu plus loin dans la transparence. Expliquez-nous ce qu'il a demandé, le président de Lorient.
C'est ça, une nouvelle idée par rapport au débat, par rapport à l'arbitrage. Donc, entre Lorient et Brest, Brest s'est imposé 1-0. Il y a eu une main de Brendan Chardonnay, le Brestois, en première mi-temps. Et il n'y a pas eu pénalty. Loïc Ferry était en colère. Et voici ce qu'il a déclaré. Les arbitres ne veulent pas se déjuger parce qu'ils sont sanctionnés s'ils le font. À quoi sert le VAR? Et c'est là que c'est nouveau. Je veux que les échanges entre les arbitres VAR... entre les arbitres pardon, et le VAR soit rendu public. Sinon, on va mettre des huissiers à côté des arbitres VAR pour compenser.
Non, mais c'est génial, Ferry.
C'est ce qui se fait dans le championnat du Portugal. Hein. Oui,
mais c'est
très bien. Mais il est génial, Ferry, parce qu'il dit à quoi sert le VAR. Mais le VAR, justement, il allait le voir. Après, c'est le libre arbitre de l'arbitre de champ.
Et pourquoi il le refuse?
Non, mais Hervé, tu sais jamais qu'il a jamais. Toi
il fait main quand même.
Non, mais après, il fait main, elle est la frappe.
Non, mais il y a un contact avec. Parce qu'il y a un contact avant avec la poitrine.
Même pas, la frappe, elle est à.
Mais comme ça, non?
Tu sais très bien qu'à partir du moment où l'arbitre. À partir du moment où l'arbitre doit avoir la vidéo, il change toujours d'avis. Tu sais que quand il va avoir la vidéo, il va pas se dire. Je me suis... Non, il pense toujours qu'il s'est trompé. Il dit pas j'ai vu un pénalty, je reste dessus. Maintenant, il prend toujours l'avis du VAR.
Non, mais la preuve à Lorient.
Donc c'est compliqué.
La preuve à Lorient, il n'a pas sifflé pénalty, il allait voir le VAR, il n'a pas sifflé pénalty.
Ah, c'était peut-être une des rares fois.
S'il n'est pas allé.
Quand le VAR l'appelle, prend toujours la décision du VAR. C'est quand même hallucinant. Enfin, tu as l'impression qu'ils n'ont pas le choix.
Là, c'est la loi Anthony Gauthier que vous avez un peu déformée, vous avez compris votre erreur. Désormais, selon Anthony Gauthier. On est sur le CIO, mais on va quand même consulter le VAR.
Ou on sent qu'il y a tension.
Quel article faut mettre pour faire baisser la tension. Non, mais moi, je reviens sur ça, là. La VAR a été lancée il y a quelques années de ça. Là, le dernier grand truc, c'est maintenant, il faut de la transparence, maintenant, il faut de la sonorisation. Mais le débat qu'on vient d'avoir, là, finalement, ça va pas être une révolution, ça va pas être quelque chose. Ben on ne sera toujours pas d'accord.
C'est pas mal la sonorisation.
Non, mais la sonorisation, c'est savoir ce qu'ils se disent.
Oui, oui. Ah ouais, c'est intéressant. Moi, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps, la sonorisation des arbitres. Pendant la Coupe du Monde féminine, on avait, dès qu'il y avait utilisation du VAR, l'arbitre, elle disait après, after review, penalty, donc elle expliquait ce qu'elle avait vu. Mais non, mais ça, c'est plutôt intéressant et je pense que ça permet peut-être de désamorcer certaines situations qui vont être tendues parce qu'on ne va pas comprendre sur le coup. Non, effectivement, après, à nous.
Ou les envenimer aussi. Parce que suivant ce que tu vas
voir. Je sais pas, nous parlons de la communication, ça permet de comprendre quand même.
Ça désamorcerait aussi les
soucis. Hervé, vous avez convaincu.
Convaincu. Ouais, on fonce de porte ouverte.
À 69, ça me plaît, ça me correspond bien.
Ça me va bien.
C'est Lyon.
Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut que les arbitres.
D'ailleurs, on va parler de Lyon.
Dans quelques minutes, la suite. Nous aurons le journal de Romain. On nous fera un stop sur la première demi-finale de Coupe de France entre l'Olympique Lyonnais et Valenciennes. Ce sera demain. Allez, à tout de suite. Allez, je vais vous dévoiler une petite coulisse de l'émission. On refaisait la finale France-Argentine, voilà. pendant la pause pub. En compagnie d'Yvan Lemay, d'Hugo Guillemet, Hervé Penaud, pardonnez-moi, je bafouille.
Non, c'est pas simple ce métier.
Siani Dalma et le président Johan Micou. Le journal du Har va retentir. Voilà.
Crypté.
Non. En clair. Première demi-finale demain de Coupe de France. Lyon face à Valenciennes. Lanterne rouge de Ligue 2. Quelques informations.
Et oui, et les nordistes veulent croire en un exploit, évidemment, et en une qualification pour la finale, évidemment. Ce serait un superbe exploit. Regardez, c'était les images du départ des Valenciennois pour Lyon. C'était ce matin devant leurs supporters. Ils sont à fond, les nordistes. Ils devraient être 1200 au Groupama Stadium. Et côté lyonnais, évidemment, on fait tout pour ne pas se voir en finale avant d'avoir joué le match. En tout cas, c'est le sens des déclarations d'Alexandre Lacazette en conférence de presse.
On connaît les pièges. Ce serait de les prendre de haut et de ne pas jouer à notre niveau. Donc c'est à nous d'être sérieux, de respecter les consignes. Et on sait qu'avec l'ambiance du public et l'atmosphère qu'il y aura mardi, si on est sérieux, ça le fera. Mais il faut quand même faire attention à cette équipe.
Bon, l'OL victime de son complexe de supériorité, est-ce quand même improbable? Hugo Guillemet, là, personne ne croit finalement que le Lyon peut flancher demain.
Ouais, c'est improbable parce qu'à chaque fois qu'ils ont eu, depuis que Pierre Sage est arrivé, à chaque fois qu'ils ont eu à jouer un match un petit peu couperé, ils ont répondu présent. Et puis, il faut quand même prendre en compte la faiblesse assez considérable de Valenciennes. Alors, même si, ça, je l'ai aussi rappelé dans sa conférence de presse, il a dit que Valenciennes n'a plus que ça à vivre parce qu'ils sont déjà condamnés.
Ouais.
Donc, ils s'accrochent à ça, leurs supporters aussi. Finale à Lille, c'est pas loin de chez eux. Ça peut être une aventure assez extraordinaire pour eux alors qu'ils descendent en national. Mais ils sont tout au fond de la Ligue 2. Lyon est la troisième meilleure équipe de Ligue 1 depuis que Pierre Sage est arrivé derrière Paris et Brest. Donc il y a un écart de niveau quand même. Si les Lyonnais jouent sérieusement comme ils envisagent de le faire, a priori, il ne devrait pas y avoir de surprise.
J'ai le complexe de supériorité de l'Olympique Lyonnais. J'ai été un petit peu influencé par le travail de Pierre Prugnot, que je salue, sur le site L'Équipe. Il a compilé les rendez-vous manqués de l'OL ces dernières années, en coupe, 2017, un huitième de finale de Coupe de la Ligue, OL Guingamp, on se dit, allez, les mains au guidon, allez, ratatiné. Merde. Quart de finale de la Coupe de France contre l'incroyable Stade Malherbe de Caen, bis repetita. Merde. Le doublé coupe-coupe en 2019 contre Strasbourg, ça ne passe pas en Coupe de la Ligue, ça ne passe pas non plus, on s'en souvient, ça avait eu la tête de Bruno Genesio contre Rennes. Merde. 2023, demi-finale de la Coupe de France, c'était l'an dernier, contre Nantes, 1-0. Le complexe de supériorité, ça n'a rien à voir.
Mais vous rendez compte du niveau de Valenciennes, niveau. C'est l'équivalent de Valenciennes, si vous voulez, c'est pas du tout une équipe, c'est pas Rennes, c'est pas Strasbourg, c'est même pas Caen. Là, vous parlez d'une équipe qui est détruite en championnat, qui n'a s'est pas qualifiée en battant un adversaire supérieur. Tout le temps, ils ont éliminé une fois une équipe de Ligue 2, PFC, à domicile. Après, ils se sont battus à l'extérieur, ils ont fait le boulot. Ils sont allés à Rouen, ils ont battu la Suède. C'est même pas une bonne équipe, c'est pas le Red Star. Vous avez une équipe qui est détruite en championnat, et c'est pas une équipe forte, par exemple, de National. Mais là, s'ils arrivaient à se qualifier, Valenciennes, mais ce serait une surprise mais incroyable. Pour moi, c'est encore pire qu'une nationale qui éliminerait une Liga.
Et ça serait une crise incroyable à Lyon.
Et ce serait une crise incroyable.
C'est l'Allemagne.
Je pourrais ajouter un petit peu d'eau à votre moulin. Je pense que Lyon ne fera pas du tout
de compacte de
condescendant. Voilà, ils ne seront pas condescendants face à Valenciennes. Après le tirage au sort, j'avais été à la conf et on avait interrogé Pierre Sage. Et on lui avait demandé c'était le meilleur tirage. Oui. Et lui, il dit que c'était le pire parce qu'en fait, parce qu'il dit en fait, tout le monde s'attend à ce qu'on gagne.
Il peut pas dire que c'est le pire tirage quand tu peux aller au Parc des Princes.
Mais pas dans ce sens. Non, pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où si tu perds, franchement, t'es ridicule. C'est le pire pour eux parce que va falloir se concentrer, va falloir être bon sur celui-ci.
Dans la narration.
Oui, mais bien sûr. Parce que si tu prends PSG ou Rennes.
Si tu perds, oui.
Non, mais dans la narration de la saison.
Mais bien sûr.
Dans la narration de la saison et dans l'avenir du club.
Mais non, mais on lui avait dit ça, évidemment. Il est d'accord là-dessus. Mais oui.
Pour son avenir à lui, l'avenir du club, la narration de la saison.
Si tu perds là,
il a raison parce que si tu perds en demi-finale de la Coupe de France contre le PSG, tout le monde trouve ça normal.
Rennes,
si là, Pierre Sage perd alors qu'il est sur un nuage, et c'est logique, les résultats parlent pour lui, les supporters l'aiment, ses dirigeants l'aiment, l'environnement l'apprécie, etc. Mais s'il perd contre Valenciennes.
Là, Pierre Sage, il peut même se poser des questions.
Bien sûr. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas les prendre dehors.
Il remet tout en cause.
D'accord, mais c'est le meilleur tirage qui pouvait arriver. Quand même.
Bien sûr. Sauf que c'est tout à gagner. Mais tout à perdre.
Tout à perdre aussi, bien sûr.
Il faut bien battre les
Non, mais attends, Hervé.
Vous avez une équipe qui est dernière.
Hervé, c'est la Coupe de France. T'as déjà vu des trucs se passer complètement surréalistes. Donc tu peux pas.
C'est jamais arrivé dans le football.
L'OM, il n'y a pas très longtemps,
si
quand même.
Si c'était à Valenciennes, ce ne serait pas la même histoire.
Oui, l'OM a pris quelques bonnes claques
mais là,
à domicile extérieur.
Guichet fermé.
Ryan Cherki a été touché au mollet. Hugo, présent ou absent demain, remplaçant titulaire remplaçant. Vous avez deux, trois tuyaux à nous donner, là?
Il y a un dernier. Alors, Vincent Duluc m'a appelé tout à l'heure. Il y a un dernier test qui sera fait demain. Mais il va être dans le groupe, a priori.
Dans le groupe.
En tout cas, ce soir, il est avec le groupe. Et,
c'est Vincent Duluc qui t'appelle, toi. Toi qui appelles Vincent Duluc.
On partage.
D'accord.
Mais il n'a pas le numéro de Duluc. Il n'a pas le niveau encore pour avoir son numéro.
Non, mais je pensais que c'était lui qui l'a fait.
Mais quand il m'appelle.
On m'a toujours dit que c'était les stagiaires qui appelaient.
Mais quand il m'appelle, je décroche immédiatement.
Oui, c'est mieux.
Hugo, là, on a une compo probable, ça va à peu près tourner autour de ça, mon Hugo.
C'est pas mal.
C'est pas mal.
C'est celle qu'on a mise dans le journal aujourd'hui.
Oui.
Ça peut être ça. Ça peut être aussi s'ils choisissent une. Comme Valenciennes est très faible et ils veulent les acculer dès les 15-20 premières minutes.
Sans gardien.
Ils peuvent privilégier une option en 4-2-3-1 en rajoutant un offensif.
D'accord. Okay.
Ça dépend aussi de l'état de Cherki.
Ok. Ça dépend le mollet de Cherki. Et Romain Hausser fait le job à Ajaccio ce soir au terme de la 30e journée de Ligue 2.
Ça sent bon pour la GIA, ça sent très bon. Même les Auxerrois ont gagné face à Ajaccio encore. C'est toujours difficile là-bas, tout le monde le dit en général. Le seul but du match à la 27e minute, il est signé Issa Soumaré avec un petit peu de réussite. C'est peut-être la réussite du champion d'ailleurs.
Ah oui, bravo.
Regardez la frappe qui semble partir, on n'est pas sûr qu'elle aille dedans. C'est un Ajaxien qui la met dans son propre but. Regardez aussi, il y a peut-être le gardien d'un champion, c'est Donovan Léon.
Bien joué.
Il est allé la chercher celle-là sur cette reprise de volée de Ben Ahmed Touré. Et donc à l'arrivée, Auxerre s'impose 1-0 à Ajaccio. Auxerre est leader de Ligue 2 avec 7 points d'avance sur Saint-Etienne, le 3e, et il reste 8 journées.
Magnifiquement résumé. En Espagne, l'Atlético de Madrid, un succès important ce soir à Villarreal dans la quête de Ligue des Champions l'an prochain.
Et oui, parce que les Colchoneros en plus étaient sur une mauvaise série de défaites en Liga. Mais ils se sont repris ce soir avec ce corner de Riquelme pour la tête de Witzel, un joueur qui s'appelle Riquelme et qui brille sur la pelouse de Villarreal. On a déjà vu ça, mais en tout cas ça fait 1-0 pour l'Atleti à ce moment-là, dès la 9e minute, l'égalisation de Sørloth.
Ah oui.
Le Norvégien, il marque beaucoup, la frappe du gauche, petit filet, c'est parfaitement placé, mais Saúl Ñíguez va offrir la victoire à l'Atlético 2-1 à la 87e minute. Et donc l'Atlético de Madrid qui remonte à la 4e place devant Bilbao et Villarreal et 10e.
C'est du mi-coup. Ça c'est du mi-coup. Président, vous êtes un sacré
joueur. Pas vu du rouge.
T'as peur du rouge.
Il était jeune, j'ai pas vu.
Vous avez joué? En Italie, suite et fin de la 30e journée, trois informations à retenir ce soir.
C'est ça. La première, c'est Florian Thauvin qui a marqué du côté de l'Udinese. Cinquième but de la saison pour l'ancien Marseillais. Il a permis à son équipe d'aller chercher un nul sur la pelouse de Sassuolo. D'ailleurs, un autre Français, Defrel, qui avait marqué juste avant Thauvin.
Donc voilà, ça se passe plutôt bien pour Thauvin. Il a pas mal de temps de jeu dans le Frioul et donc il en est à 5 buts cette saison.
Ah, mais c'est lui qui met la talonnade au départ.
Deuxième info, c'est la victoire de l'Inter 2-0 face à Empoli. Le premier but est signé Federico Di Marco. Un joli but. Marque pas mal d'ailleurs le latéral gauche, latéral gauche de l'Inter Milan.
Et en jeu de position là,
et le deuxième but, c'est Alexis Sanchez.
Oh, oh là,
et donc ça
oh,
fait 2-0 pour l'Inter, largement leader de Serie A avec 14 points d'avance sur l'AC Milan. Et là, je me tais, et c'est Alexis Salmakers. C'est avec le Bologne de Thiago Motta qui est quatrième de Serie A, bien parti pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Et là, ce but, c'est le deuxième du match, il est absolument magnifique.
On a des nouvelles de Yacine Benzia. La semaine dernière, lors de la semaine internationale, il avait marqué un but extraordinaire avec l'Algérie contre l'Afrique du Sud. Et on l'a retrouvé. Nabil Djellit l'a retrouvé, l'a interviewé.
Exactement. Et évidemment, le but de Yacine Benzia avait fait le tour du monde. Il était absolument magnifique. Algérie, Afrique du Sud, il n'avait plus été sélectionné depuis 6 ans, Benzia. Et regardez ce but sur cet enchaînement fabuleux dans la surface. C'était d'ailleurs ses deux premiers buts en sélection à 29 ans. Superbe histoire en tout cas. Et donc Nabil Djellit l'a interviewé. C'est disponible sur le site de l'équipe depuis cet après-midi. Ouais. Et en fait, pour Benzia, c'est un peu le but de la renaissance, notamment grâce à la réaction du public. C'était près d'Alger. C'est l'ovation la plus forte de ma carrière. Je l'ai réellement savouré. Juste après le but, je me mets à genoux et je remercie le ciel. Je prends 5-6 secondes et je regarde les tribunes pour bien réaliser. Je sais que mon frère est là, une partie de ma famille aussi. Je me dis juste, Yacine, tu as bien fait de ne pas lâcher. Il a aussi confié dans l'interview, vous irez voir, mais qu'il était, qu'il avait reçu énormément de messages d'anciens joueurs, d'anciens coachs, et que tout le monde lui disait que c'était un prix Puskas potentiel.
Ah, oui.
Il revient de loin. Ah, oui. Ah, oui. Je me rappelle, je filais Dijon à l'époque où il arrive, donc en janvier.
L'accident de Buggy.
Exactement, en plein Covid. Ouais. Et c'était terrible pour le club qui avait beaucoup misé sur lui, parce que Dijon jouait son maintien, le pouce.
Oui, c'est ça, parce que vous touchez le pouce, on voit les images, mais oui, il perd un pouce sur cet accident.
Ouais. Et c'était terrible parce qu'il essayait de se relancer à l'époque, donc il avait fait quelques mois avec Dijon. Et
il n'a pas perdu ses pieds, en tout cas.
Ben...
C'est un joueur formidable.
Oui, c'est un magnifique joueur, effectivement, oui. Donc c'est une belle revanche sur la vie.
On va se jeter sur l'interview de Nabil Djellit.
C'est magnifique.
Hein, oui, de Yacine Benzia, parce que Nabil, vous le connaissez.
Oui, mais j'adore ses questions.
Ouais, d'accord.
Je ne sais pas si je lirai les réponses à mes questions.
Merci beaucoup. Silence, Servet, regardez, émerveillez-vous de ce but de Yacine Benzia.
Oh, j'adore, Benzia, j'ai toujours adoré.
Allez, c'est terminé, Yacine, on vous laisse remarquer. Là, j'ai l'impression qu'il a marqué 30 buts.
Voilà. Mais il va avoir plusieurs prix Puskas, je crois.
Le début du Tour du Pays Basque aujourd'hui avec un plateau exceptionnel.
Exceptionnel, c'est le cas de le dire. Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Jane Lee, Carlos Rodriguez, ils sont tous là, ils sont tous là et prêts à en découdre au Pays Basque. Première étape aujourd'hui avec un contre-la-montre et la chute de Remco Evenepoel. Vous allez le voir, c'était le favori sur le chrono.
Ah non,
bon, il a perdu quelques secondes, pas trop quand même. Il a limité la casse puisqu'il a terminé quatrième à 11 secondes du vainqueur. Et le vainqueur, c'est cet homme, Primoz Roglic. Lui aussi est très à l'aise sur l'exercice du contre-la-montre. Vingegaard termine 5e à 15 secondes de Roglic. Belle 6e place pour le français Kevin Vauclin avec les meilleurs. En tout cas, ça va être une énorme bagarre toute la semaine. C'est un plateau Tour de France, hein, clairement.
Oui.
Il manque que Pogacar, en fait.
D'accord. Oui, mais c'est quelqu'un d'important.
En NBA, Victor Wembanyama, merci de cette précision.
C'est important.
En NBA, Victor Wembanyama et Luka Doncic ont régalé l'année dernière.
Encore un gros match du rookie français Victor Wembanyama, toujours aussi précieux sur tous les aspects du jeu avec San Antonio. Écoutez sa fiche de stats. 32 points, 9 rebonds, 5 passes décisives, 4 interceptions et 3 contre. Il est partout. Le seul problème, c'est qu'en face, il y a Stephen Curry et Draymond Green avec Golden State. Donc à l'arrivée, ce sont les Warriors qui l'ont emporté 117 à 13 malgré, vous voyez, toutes les jolies actions de Victor Wembanyama. Mais la performance du Français a été éclipsée par celle de Luka Doncic, auteur de 47 points avec Dallas et notamment de ce panier complètement dingue. Il essaye même plus de shooter normalement, il essaye d'autres trucs, de toute façon c'est trop facile pour lui.
Oh, extraordinaire,
c'est louche.
Sur l'équipe gagne là.
Absolument.
Ouais, merci beaucoup Romain. L'OM européen, bah, ça se complique un petit peu, on va voir le classement puisque l'OM reste 7e du championnat, mais son écart entre lui et les clubs en lice ne faiblit pas, d'autant que les 4 premiers ce week-end ont gagné. Et pour la très rémunératrice Ligue des Champions, il y a désormais 7 points de retard. L'OM européen, êtes-vous désormais pessimiste? 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord, super duel, on y va. Deux pessimistes, Hugo Guillemet et Céline Alma, qui commencent chez les Dalma Guillemet.
Vas-y si tu veux.
Okay.
Siani prendra la main. Hervé et Yvan, petit conseil Hervé, Yvan, Il bouffe le chrono.
Ah, bon,
c'est pas vrai. Alors, non, c'est pas vrai,
mais je te fais confiance ou pas?
Fais-moi confiance.
Bon, allez,
vas-y.
Non, Yvan, bravo. Merci, Hervé. L'OM européen, êtes-vous désormais pessimiste? Ouais. Siani est un peu pessimiste. On y va. Pourquoi ça sent un petit peu le roussi pour l'OM?
Ça sent un petit peu le roussi parce qu'en suivant bien la saison de l'OM et malgré la bonne période gassée, moi j'ai toujours un petit peu de doute sur cette équipe très inconstante. Et quand on regarde les adversaires en Ligue 1 qu'ils ont battus sous Gassé, donc Montpellier, Clermont, Nantes, c'est quand même des adversaires assez faibles, voire très faibles. Et pour moi, c'était un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Et contre les adversaires plus forts, c'est-à-dire Rennes et Paris, ils ont perdu. Donc pour moi, je ne vois pas comment ils vont repasser devant tous ceux qui sont devant, sachant qu'ils n'ont pas battu, je crois, cette saison une équipe devant eux.
Il reste encore une lueur d'espoir pour Yvan Lemay, c'est-à-dire
une lueur d'espoir de jouer l'Europa League ou la Conférence, donc pas la Ligue des Champions, qui est l'ADN de l'OM. Le propriétaire a mis beaucoup d'argent encore cet été et a essayé de construire une équipe pour aller en Ligue des Champions. Et ils ne vont pas y aller. Et ça va encore faire un déficit de 50 ou 60 millions uniquement sur la Ligue des Champions. Et ça ne sera jamais rattrapé par la Ligue Europa, non. L'Europe, oui, mais pas l'Europe que doit jouer l'Olympique de Marseille, parce que c'est pas cette coupe-là qu'ils doivent jouer, évidemment. Donc très, très décevant au final.
Non, ok. Pessimiste pour la Ligue des Champions, c'est râpé, mais pas pour la Coupe d'Europe. D'accord, ok, très bien. Il y a une nuance à apporter. Hugo Guimet, c'est à vous de jouer.
Non, mais c'est bien, c'est des arguments pour nous, du coup, parce que Marseille, on les attend au moins quatrième pour le barrage de la Ligue des Champions. Siani a rappelé les résultats. C'est vrai qu'on s'était enflammé depuis l'arrivée de Gassé, mais ils avaient battu personne. Ensuite, il y a eu le déplacement à Villarreal où vraiment ils se sont fait retourner. Deux défaites en Ligue 1, Rennes, Paris. Et les matchs qui arrivent, moi, me rendent pessimiste parce que c'est Lille, c'est Nice, c'est Lens. Et ça va être très compliqué pour Marseille d'engranger des points, en plus face à des adversaires directs pour la Coupe d'Europe.
Ok, Hervé Penaud, 31 secondes et 5. Bravo Yvan, je suis désolé.
Bah là, Hugo est en train de tordre la question. Parce que la question, c'est pas de savoir s'ils vont aller en Ligue des Champions, s'ils sont européens. Figurez-vous que si Paris Saint-Germain gagnait la Coupe de France, ce qui n'est pas complètement un truc absurde, ils seraient européens. Donc déjà, ils ont un classement qui ne peut pas être européen. Alors c'est vrai que le calendrier, moi, vous savez, j'y crois pas complètement au calendrier, mais le fait au moins d'avoir des adversaires directs, comme Nice, comme Lens, c'est une possibilité aussi de leur gratter des points. Et on ne peut pas dire que Nice, en ce moment, soit un adversaire qui fait peur à beaucoup de monde. Donc, ce qui va se passer, ils ont un effectif qui peut se reprendre. Il y a Klose qui va revenir. Mbemba, visiblement, c'est pas si méchant que ça. Il sera là après le match contre Lille. Il y a un effectif pour les plus hauts.
3 dixièmes pour la paire d'Alma Guillemet. Il va falloir aller très vite. À vous de jouer.
Et j'ai pas tordu la question, j'ai tordu vos arguments.
Merci beaucoup. L'OM européen, êtes-vous désormais pessimiste? Si vous êtes pessimiste, vous votez pour Hugo Siani. S'il y a encore un petit peu de vie, donc d'espoir, et une nuance apportée telle que nous l'a apporté Yvan Lemay, votez pour Yvan, associé à son parajo, Hervé Penaud. À vous de jouer.
On connaît. Mais non, mais après, s'il faut répondre à la question, c'est européen. Moi, je pense qu'ils vont l'être. Après, la quatrième place, ça va être très compliqué à aller chercher, mais je pense qu'ils vont être dans les six, quoi, et voire éventuellement sept pour si Paris gagne le doublé.
Sept si Paris gagne la coupe, la septième place est européenne.
Donc, je pense pas que Marseille, ça voudrait dire que Marseille sort des sept premières places. J'y crois pas trop, quoi.
Non, vous trouvez... On regarde le calendrier, parce que c'est vrai que ça a été un élément de débat et un élément d'argument. Regardons ce calendrier. Alors, mis à part Benfica, il y a une halte à Lille, ça sera vendredi prochain, une réception de Nice, de Lens et de Reims. Pourquoi je
parle Toulouse, c'est dur aussi.
Oui, Toulouse, c'est pas évident. Pourquoi je Lille, Nice, Lens, Reims, puisque vendredi dernier, dans la Provence, cette saison, l'OM ne compte que 3 victoires, désormais en 12 matchs, sur les 9 premiers de Ligue 1. Pour 7 défaites. Voilà le profil de cet Olympique de Marseille. Donc sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sur les 7 matchs, il y a 4 matchs contre des équipes, on va dire, du top 9.
Ouais, mais ils vont un peu mieux quand même. L'OM va un peu mieux, je trouve.
Un peu mieux.
Ils ont battu. C'est pour dire qu'ils vont finir 7e, on ne débat pas, les gars.
Dans le contenu, je trouve que c'est quand même les joueurs sont remis un peu la tête à l'endroit. Ça va un peu mieux qu'il y a un mois.
Enfin, ça va mieux, mais ils battent pas les gros. Oui, c'est, mais, non, tu vois, tu bats Clermont, tu bats Nantes, tu bats Montpellier, c'est très bien, tu vois, ça leur a permis de remonter et prendre de la confiance. Mais dès qu'on va en altitude, contre Rennes, ils ont perdu. Contre Paris, ils ont super bien démarré.
Ah, Villarreal, ils les ont bien.
Ah, mais au retour, t'as vu comme. Enfin, ils sont pas 6 de
moins. Tu les attends 6-7e.
Vous voyez que le verre vide.
Non,
pas du tout. Je vois aussi le match aller.
Moi, de cette équipe-là, j'attends pas que tu joues à 7e place, en fait. Et l'Europe, pour moi, pour l'OM.
Non, mais après,
pour moi, l'Europe, pour l'OM, c'est pas Ligue Europa, c'est pas Ligue Europa.
Non, mais la question. Le verre vide, tu te contentes d'un verre.
Non, moi, je réponds à la question. Est-ce que l'OM en Ligue des Champions, j'aurais répondu différemment.
Oui, mais
l'OM
européen.
Exactement.
Oui, mais maintenant, la question. Elle est finie, donc on peut débattre sérieusement.
Manger que du caviar.
Non, c'est pas que du caviar, mais l'OM, on les attend dans le quatuor tête.
Oui, mais l'OM doit aller là.
Dans la Coupe d'Europe, c'est que la Ligue des Champions.
L'OM, tu les attends en Europa Conférence, toi ?
Longoria, il a quoi ses objectifs de début de saison ?
Non, Siani, on n'entend pas. Maintenant, c'est Siani qui parle. Il y a une prise en étau. Siani, demandez audience, on vous écoute maintenant.
C'était quoi les objectifs de Longoria ?
Non, mais je suis d'accord avec vous sur le fait par rapport à la Ligue des Champions.
C'était d'être 7e, mais d'aller se pavaner en Ligue Europa Conférence.
Non, mais je réponds à la question qui est là.
On peut avancer sur autre chose.
Oui, mais maintenant, je te réponds à cette question. Moi, je pensais qu'ils allaient être en Ligue des Champions, oui.
Ah, tu penses encore qu'ils vont être en Ligue des Champions ?
Non, non, je pensais. Alors là, ça va être très compliqué, comme je l'ai dit. Mais oui, ce sera un échec sur la saison.
Très compliqué cette fin de saison, puisque Jean-Louis Gasset, hier, parle de l'infirmerie marseillaise. Écoutez-le.
Donc Jonathan Kloss, Samuel Gigot, Balerdi, et si Mbemba, si les examens sont litigieux, ça va être encore un casse-tête chinois pour les échéances.
Le fameux casse-tête chinois de Jean-Louis Gasset. Et là, l'infirmerie commence à vraiment à se remplir.
Il a raison, ça va compter.
Sur le match de vendredi qui viendra contre Lille, effectivement, ça risque d'être un petit peu difficile. En revanche, apparemment, il y a des joueurs qui pourraient rentrer ensuite. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire que Marseille n'a pas battu un top 8. Là, on parlait du Marseille de Gasset. Vous me dites qu'il n'a pas battu les grands adversaires, mais il a pourri les équipes qu'ils avaient en face. Mmh. Là, on a discuté tout à l'heure justement du fameux but qui aurait pu être l'égalisation de Marseille contre Paris. On en a parlé. Pour certains, ici, il aurait dû y avoir égalisation, ce qui aurait peut-être changé le cours du match. Et ils auraient peut-être eu un résultat contre le Paris Saint-Germain.
C'est le sens de l'analyse.
Je sais pas, il y a eu 2-0, donc ça aurait fait 2.
C'est le sens de l'analyse de Jean-Louis Gasset hier qui disait que finalement, tout a été faussé par ce but refusé. Voilà.
Si on estime qu'il y a but, effectivement, on peut le penser. Mmh. Ça a au moins modifié certainement la perception.
Moi, je vous ai écouté hier dans l'équipe du soir. Alors, je ne vais pas vous forcer la main, Hugo et Johan. Et vous nous avez dit, en fait, ce qui fait tourner le match, c'est le mauvais début de deuxième période de l'Olympique de Marseille. C'est ça qui, pour vous, a fait tourner le match, pas finalement ce but refusé. Enfin,
non, mais c'est un ensemble. Mais c'est vrai que le début de la deuxième mi-temps est catastrophique du côté de Marseille. Et Paris a réalisé qu'à 10, il fallait être plus sérieux. Et Paris a monté le curseur et Marseille n'a pas su répondre. Il y a eu un quart d'heure où les Marseillais avaient laissé un espace fou aux Parisiens pour pouvoir évoluer. Et ça, c'est très surprenant. Alors, ce quart d'heure raté, qui éventuellement, par ce but refusé, aurait pu peut-être relancer ce match et mettre un peu de folie dans ce stade, on sait, à un de plus, ça aurait peut-être pu porter les joueurs. Donc les deux trucs, pour moi, sont les arguments qui font qu'à la sortie, tu
Donc il n'a pas tout à fait tort. Donc,
il y a trop d'écart. Ce qu'on a dit hier aussi...
Oui, mais ça peut changer que c'est égalisé dans ce stade.
Non, mais ce qu'on a dit hier, c'est qu'après l'expulsion de Beraldo, il y a eu beaucoup de... En fait, le PSG était très désorganisé, il y avait de la tension, ils ont pris beaucoup de jaunes à ce moment-là. Ouais. Il restait 10 minutes en première période et on voit même Donnarumma sur des 6 mètres qui essaye de gagner du temps. Mmh. Et là, l'objectif pour le Paris Saint-Germain, c'est d'arriver à la pause, à la mi-temps, 0-0 et se réorganiser. Et à ce moment-là, Marseille n'a pas du tout appuyé. C'est-à-dire qu'ils n'allaient même pas presser, ils n'allaient pas les chercher. Ils auraient dû mettre le feu à ce moment-là, parce que c'est là qu'ils auraient pu marquer, qu'ils auraient pu ouvrir le score. Et on a vu le PSG revenir en début de seconde période, alors peut-être que l'OM n'a pas fait ce qu'il fallait, mais le PSG avait vraiment monté le curseur. Et à 10 contre 11, ils étaient très au-dessus de l'OM dans le jeu, collectivement. On avait même l'impression que c'était eux qui étaient 11 contre 10.
Oui, c'est moi l'impression devant mon poste de télé. J'ai dit, mais qui est en supériorité numérique, bon sang, bonsoir.
Parce que PSG s'est fait peur. La première période appartient aux Marseillais, Paris n'est pas là, absent. Ils se sont fait peur. Oui. Au final, il y a ce carton, le 11 contre 10. Et tu t'attends quand même à ce qu'il reste beaucoup de temps. Il reste la moitié du match. Mmh. Et il y a une très mauvaise gestion, je pense, de l'OM sur les situations techniques. Parce qu'en 11 contre 10 au Vélodrome, ça ne doit pas se passer comme ça. Mmh. Tu ne prends pas des buts sur contre. Il y a des erreurs de marquage invraisemblables. Il y a des positionnements sur le terrain que tu ne peux pas voir sur un match comme ça.
Même bas.
Tu perds,
ouais. Oui. Et une minute après, tu prends le but. Ouais.
Mais, donc, mais c'est quand même incroyable de perdre à la maison. Ah, oui. À 11 contre 10, sur 2 contre. Tu ne peux pas perdre comme ça. Tu peux essayer de jouer. Tu peux essayer de te dire, le dernier quart d'heure, Paris va craquer sous la pression, la fatigue, le machin.
Un peu mieux, le deuxième.
Pour moi, dans la gestion du temps, ils auraient dû essayer d'amener le match sur la fin et de le gagner à la fin de Marseille. Et au final, bah, tu le perds très vite.
Et si Yvan, vendredi prochain, on a Lille-OM. J'ai revu les salaires de Ligue 1. Dans le hit-parade, dont si Paris Saint-Germain caracole en tête, l'OM a la deuxième masse salariale de Ligue 1 avec 261 000, donc brut, mensuel, donc voilà, c'est la moyenne. Le troisième, c'est l'OL qui affiche une moyenne de 180 000. Donc vendredi, ils vont à Lille. Lille, leur salaire brut moyen, c'est 93 000 euros.
Avec un salarié cap aujourd'hui à Lille,
270 000. Avec un salarié. Mais est-ce qu'il y a une classe d'écart, quand vous voyez sportivement, est-ce qu'il y a une classe d'écart entre l'effectif de Lille et l'effectif de Marseille? Donc 261 000 contre 93. Je vous pose la question, je suis désolé, elle est un peu orientée.
La différence,
il n'y a pas un boulevard.
Lille, après les problèmes qu'ils ont connus, ils ont été obligés de vraiment recadrer la maison. Donc ils ont tout coupé. Ouais. Budget transfert, budget salaire. Et ils ont été obligés de travailler différemment. Et au lieu d'aller chercher un joueur comme tu vas prendre toi à 35 millions, Vitinha, ils vont chercher un Zegrova. Je ne parle pas du poste, hein, je parle sur les acquisitions de joueurs. Ils vont dans les pays de l'Est, ils vont dans les pays nordiques, ils vont sur des championnats où d'autres clubs ne vont pas, où tu payes moins cher, et en transfert et en salaire. Donc aujourd'hui...
Ils bossent mieux.
Ben oui, ils bossent mieux.
À 261 000 à 93 000.
Le désastre. Souvent, quand on a plus d'argent, c'est là qu'on se met.
Quand tu vois le désastre hier soir... Attendez.
Qui dit l'effectif des Lille, il se connaît un petit peu. Non, mais
non. Alors, on compare.
Attends.
Hier rentre Moubania. J'aimerais entendre un jour.
Non, mais bon.
Joueur, j'aimerais entendre un jour. Tu as payé 8 millions d'euros. 8 millions d'euros, c'est pas rien, c'est pas un pain au chocolat. Qu'est-ce qu'il fait, Moubanière, pour venir ? Ndiaye, 20 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il fait hier soir sur le terrain, un match comme ça ?
Je suis pas d'accord avec toi.
Sarr, 15 millions, des joueurs qui viennent de D2 anglaise.
Marseille, ils ont tout changé à l'intersaison. Lille, c'est quand même, ça fait 2-3 ans qu'ils travaillent quand même avec les mêmes joueurs, qu'ils changent à la marche. C'est une équipe qui a déjà un peu plus de certitude que l'OM, qui en a pour moi.
Alors, ils ont un coach de très haut niveau. Ils ont sorti, ils sortent des jeunes. Yoro, c'est un joueur très haut niveau. Lucas Chevalier, c'est un joueur très haut niveau. Ils arrivent, ils ont un centre de formation. Et n'oubliez pas une chose.
C'est terrible, on creuse ce que vous dites sur l'OM.
Hein,
bien sûr. Le recrutement de Longoria est catastrophique.
Et il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier. À l'OM et Lille ne font pas le même championnat. Ça, c'est capital. Les joueurs de vous les deux, vous les mettez à l'OM, je ne sais pas combien ils sont.
Écoutez, je ne savais pas que Lille joue en Serie A, mais enfin, voilà. Ça
bon, après, ils ont des bons résultats.
C'est
à la
beaucoup
maison,
plus dur d'être à l'OM qu'à Lille.
Marseille à la maison, c'est quand même performant. Cette année. Hein, cette année, l'OM à la maison, c'est performant.
C'est vrai.
Le problème qu'ils ont, c'est l'extérieur. Ils n'arrivent pas à faire les deux.
Paris Saint-Germain, bonsoir.
Mieux à l'extérieur.
Un jour, ça va arriver, ils vont en faire
les deux.
Bonne saison. Paris Saint-Germain en progrès, si l'on scrute les progrès donc, du Paris Saint-Germain, c'est dû à une promesse de notre rédacteur en chef, Luis Enrique. Un soir de décembre, voici cette archive. Ah, on l'a d'abord, le but de Vitinha avec la passe de Dembélé. Bon, Luis Enrique, on ne va pas l'écouter, vous vous souvenez toujours de sa petite séquence. C'est finalement, on sera meilleur en février. Bon, on est au mois de mars, même maintenant le 1er avril. Est-ce un classico qui valide les progrès collectifs du Paris Saint-Germain ? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Envoyez le jingle, s'il vous plaît, Régis, merci beaucoup. Ils sont souvent d'accord, mais cette fois-ci, on va se quitter par un petit désaccord entre Siani et Hervé. Est-ce un classico qui valide les progrès collectifs du Paris Saint-Germain ? Oui, Siani, vous voyez hier, ou en tout cas, vous avez vu des progrès. Oui. Non, Hervé, il n'en voit pas, enfin, en tout cas, pas des remarquables. On y va, Siani.
Alors moi déjà, PSG qui gagne sans Kylian Mbappé, pour moi c'est un vrai progrès parce que souvent ils ont été dépendants de lui, même si je pense que je vais fâcher le président en disant ça. Et puis j'ai aimé voir que cette équipe était capable d'avoir du mental et de l'orgueil en étant réduite à 10. Alors effectivement le PSG a souffert, Donnarumma a dû être grand, mais on a vu aussi des vertus mentales qui vont être importantes en Ligue des Champions. Et pour moi c'est un vrai progrès, alors ça peut être pas que dans le jeu, et l'aspect mental va être important jusqu'à la fin de la saison.
Hervé Penaud.
Ben moi, j'ai rien vu dans ce match-là qui peut se dire, ben tiens, j'ai vu un nouveau Paris Saint-Germain. Première période en difficulté, grand Donnarumma. Deuxième période, finalement, quand ils arrivent à s'en sortir un petit peu, il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas Kolo Muani, il n'y a pas Kylian Mbappé. Donc, entre guillemets, c'est pas l'équipe 1 du PSG, c'est pas celle qui jouera contre Barcelone, c'est pas même peut-être pas celle qui jouera en demi-finale de coupe. Donc, j'ai vu un Paris Saint-Germain classique, avec des défauts défensivement, et puis une qualité technique, évidemment, largement au-dessus de celle du Paris Saint-Germain, de Marseille, qui peut permettre de faire des différences. Quant au fait d'être 10 contre 11, c'est pas la première fois pour eux contre Marseille et s'imposer.
Ok, 7 dixièmes de seconde pour Siani. Avez-vous un argument choc, mais rapide? Personnellement. C'est un classico qui valide les progrès collectifs du Paris Saint-Germain. Il y a eu un oui, Siani, il y a eu un non, Hervé, et il y a un président qui va trancher.
Pas forcément. Je suis plutôt de l'avis d'Hervé. Je n'ai pas vu des progrès fantastiques. J'ai vu une équipe qui s'est accrochée en deuxième mi-temps et qui a levé le curseur par rapport au niveau technique et qui a fait mal à ce Marseille qui n'était pas rentré dans ce premier quart d'heure. Mais après, ils ont été un peu bousculés. Donnarumma, la meilleure note encore ce matin dans l'équipe, ce que je trouve normal. Donc c'est un peu répétitif, quoi. C'est-à-dire un PSG qui contrôle pas forcément l'ensemble du match. Quoi.
Luis Enrique en conférence de presse s'est montré content du résultat obtenu dans une ambiance de feu, voilà. Mais il a été aussi un moment critique sur cette fameuse première période. Écoutons-le.
Je n'étais pas content de notre première période. Nous étions loin de notre niveau habituel. Nous n'avons pas bien occupé les espaces. C'était ma responsabilité. Même s'il y a eu beaucoup d'erreurs techniques de joueurs qui habituellement n'en font pas, la preuve, nous avons eu que deux occasions lors de la première période et c'est tout. Et cette réaction d'orgueil en deuxième période avec de la solidarité et par l'attitude de tous les joueurs, spécialement des joueurs sortis du banc, car pour gagner des titres, on a besoin de tous les joueurs. C'est la preuve qu'on est plus fort quand on fait les choses ensemble. Cette deuxième période a été jouée avec un style inhabituel, mais on l'a bien fait.
Pero lo hemos hecho muy bien. Il nous la réaction de ces joueurs, mais il y a encore un courant alternatif. Il y a déjà pas de constance, voilà, sur un même match, Yvan. Mais est-ce que vous pensez que ça progresse, vous, pour vous ?
Collectivement, il progresse. Je suis pas fan de Luis Enrique comme entraîneur, mais je suis pas évident comme personne non plus à cerner et à transmettre avec lui. Mais force est de constater qu'il fait un travail sur l'équipe qui est bon. Et aujourd'hui, collectivement, ils sont plus forts. Paris Saint-Germain, vous les avez vus souvent en une première mi-temps comme ça et une deuxième mi-temps réagir. Gagner à 10, vous avez déjà vu Paris Saint-Germain jouer
souvent
à 10.
Souvent, ils s'effondraient quand ils
donc,
avaient des...
Normalement, ça pique et après, on ne les voit plus. Donc là, je pense qu'il y a quand même cette résilience qu'il arrive à leur donner, Luis Enrique. Il tue les individualités, ce qu'il fait avec Mbappé, on a eu le débat, etc. Il tue les individualités pour prôner le collectif. Et force est de constater qu'il y arrive. Et aujourd'hui, pour moi, l'équipe, collectivement, et les meilleurs quand même.
Est-ce que c'est rare pour le souligner, mais on a une période de la saison où généralement on sent que Paris explose, implose, voilà. Là on sent qu'il y a encore une dynamique. Alors est-ce que c'est l'effet trompeur d'une qualification toujours en Ligue des Champions, voilà. Est-ce que, voilà.
Ils ont plus.
Non, est-ce que vous avez des bons...
Avec une équipe en fait moins, avec des noms moins flamboyants, ils ont plus de certitude dans le jeu. C'est indiscutable que les autres saisons à la même période. Après, Luis Enrique, il est gentil, il n'est pas content de la première période, mais c'est un peu de sa faute parce qu'il avait voulu tester un truc. Enfin, il a mis Dembélé dans une position qui
comme
était...
à la Real Sociedad.
Comme à la Real Sociedad, mais il jouait, il redescendait vraiment très très bas. Et Marseille avait 20-25 minutes d'autonomie pour du très gros pressing et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça qu'ils ont dominé le début de match. Mais ils ont eu aussi des occasions et des tirs. Parce que Dembélé a perdu beaucoup de ballons dans son camp, qui a offert des transitions rapides aux Marseillais, qui ont eu des occasions à ce moment-là. Et en fait, paradoxalement, l'expulsion de Beraldo, elle a un petit peu arrangé Paris sur le plan tactique, parce qu'ils sont revenus à beaucoup plus de simplicité, et avec une meilleure organisation, finalement. Et faire ce qu'ils ont fait à 10 contre 11, alors qu'avec autant de vents contraires, on les a vus souvent, à la même période de l'année, s'effondrer... moi, je trouve ça fort parce que voilà, c'était quand même Marseille en face, Berrettou qui faisait un bon match.
Vous dites qu'ils s'effondrent, ils s'effondrent quand même assez rarement en championnat de France quand même. Ah. Et notamment contre Marseille. Mais Marseille, c'est leur adversaire idéal. Ils les battent tout le temps, même à 10 contre 11. C'est pas la première fois. Donc, ils ont quand même été en énorme difficulté sur la fin de match. Donnarumma, il faut au moins 4-5 arrêts. Oui, il y a un but qui est refusé. On est tous là à dire qu'il aurait peut-être dû être accepté. Après, vous avez 2-3 occasions. Même là, peut-être la faute de Donnarumma sur Gigot. On peut toujours se poser la question. Il rate la balle, mais il rate pas la tête de Gigot. Enfin bon, il y a quelques situations comme ça. Moi, j'ai trouvé quand même.
Tu veux que je te dise pourquoi ils progressent collectivement ? Parce que dans la progression du ballon, il n'y a plus besoin d'exploits individuels. Et ce que je vois à 10 contre 11, et on se faisait la remarque quelques jours devant la télé, c'est-à-dire qu'ils avaient des espaces entre les lignes. Alors, c'était peut-être à cause des Marseillais. Mais ils avaient. Quand Lee Kang-in et Asensio, voire Vitinha se plaçaient entre les lignes, ils avaient toujours un joueur de plus dans les zones. Non mais attends, ils faisaient progresser le ballon avec des triangles.
Donc s'ils sont meilleurs avec eux, alors s'ils progressent avec eux, donc il faut enlever les Dembélé, Mbappé, Calomani alors. Parce que c'est pas des joueurs logiciels. Là vous me parlez de remplaçants.
Non mais ce que dit Hugo est très intéressant, il te dit juste que là, il s'appuie sur un collectif, sur des joueurs qui vont
pouvoir jouer ensemble et qu'il a peut-être plus envie d'avoir ses dépendant de
l'exploit individuel. Donc il faut faire jouer Asensio.
Mais pour finir ce match-là, c'était très bien.
Mais je dis pas pour sur d'autres matchs. Je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que c'est pas des joueurs.
Asensio, c'est pas en jouer. Mais son animation offensive, il l'a construit autour de qui? L'animation offensive du PSG, elle est construite autour de qui? De Dembélé. Elle est construite autour de Dembélé depuis plusieurs semaines. Donc évidemment, c'est Dembélé qui fait encore la différence.
Mbappé, je pense que son animation, on en reparlera, mais les matchs qui vont compter, c'est-à-dire, comme par hasard, il l'a fait jouer titulaire contre Marseille, il l'a fait jouer
titulaire. Mais il sera titulaire contre le Barça.
Et bien, il sera titulaire contre
Marseille. Il sortira s'il n'est pas bon.
T'as bien vu que le circuit du ballon, c'était plutôt dans les pieds de Dembélé, pas dans les pieds de Mbappé.
C'est normal, il l'a fait jouer
Ou Penaud ou Dalma, Siani ou Hervé. On vous laisse encore un petit peu de temps pour voter la décision. Ce sera juste la décision. Ce sera juste après la publicité. Voilà. Romain, la une de l'équipe, demain, on parle de quoi? Lyon-Valenciennes?
Non, pas tout à fait. Enfin, on va parler de Lyon-Valenciennes, évidemment, dans le journal L'équipe de demain, mais en tout cas, il y a surtout un dossier très intéressant par rapport aux commotions cérébrales dans le football, avec notamment une interview de Raphaël Varane qui dit « J'ai abîmé mon corps à cause des commotions cérébrales ». Il y a aussi tout un tas de papiers en plus par rapport à ce sujet. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus, donc foncez.
C'est à lire, c'est demain. C'est dans le journal. La Ligue 1 Express, 27e journée de Ligue 1. Lorient 0, Brest 1. Brest est plus que jamais en course pour la Ligue des Champions. Faut-il s'en réjouir? Yvan, Hervé et Hugo voulaient en parler. Yvan, à vous de jouer.
Bien sûr qu'il faut s'en réjouir de voir un club qui a 40 millions d'euros de budget et qui met la tannée justement à tous ces clubs qui ont 5 fois plus d'argent. C'est et pour l'entraîneur et pour les dirigeants qui recrutent, c'est très bien. Après, ça fait pas rêver pour le business, pour la Ligue des Champions, pour les droits, pour les points, enfin, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est une belle histoire, donc faut bien l'accueillir.
Tout le monde est d'accord?
Ah bah 100% d'accord. Non, moi, je suis pas économiste, on est journaliste. Ah oui. Ce qu'on est en train de voir, c'est un truc génial.
On a envie de vibrer. Pendant la pub, je parlais de Montpellier 2012, là c'est pareil, Leicester et tout, c'est les histoires dont on se rappelle.
Montpellier était quand même plus armé, je pensais à cet après-midi, Montpellier était quand même plus armé à l'époque que Brest aujourd'hui. Non, mais Brest, en termes d'effectifs, de qualité de joueur.
Le succès de Nantes à Nice de Buzyn, est-ce déjà un effet Antoine Comboiré, Hervé Penaud?
Non,
Abline.
Vous vous souvenez, là, le premier match de Gourvennec, c'était pas déjà contre Nice qu'il avait gagné?
Exactement.
Bon, donc ça veut bien dire qu'il y avait un effet Gourvennec à l'époque. Puis après, ça s'est écrasé. Vous savez, on avait fait un débat ici.
Non, tu peux avoir un effet changement de coach. Oui. Après, sur la durée,
c'est la durée. Donc, mais moi, j'ai toujours pensé que c'était un super choix de prendre Comboiré. On avait fait un débat ici même. Parce que c'est l'homme qui connaît de la situation, il connaît exactement ce genre de situation, il connaît le club parfaitement. Donc c'est génial. Mais c'est pas simplement sur ce match-là qu'on va le voir. On verra sur les matchs.
J'ai une question à vous poser. On peut faire pouf pouf le classement. C'est deuxième partie. Nantes a redressé la barre, a gagné. Succès important. Mais ce week-end, Toulouse, Strasbourg et Montpellier ont gagné. La lutte pour le maintien, là, la jauge, vous la mettez où désormais? Est-ce que vous la mettez du côté de Montpellier ou toujours pour Toulouse et Strasbourg, les copains?
En Toulouse, c'est fini. Non,
Toulouse, c'est bon. Toulouse et Strasbourg, c'est maintenu pour vous?
Ah, maintenu, non.
Non, sur les deux. Officiellement.
Non, mais sur les deux, sur la troisième, c'est barragiste, au minimum barragiste.
Strasbourg, avec la victoire contre Rennes, a fait un grand pas.
Ouais. Ouais.
Pour au moins barragiste.
Ok, d'accord. C'est tout ce que je voulais savoir. Calendrier de Nantes, Lyon va au Havre, Rennes va à Montpellier, va à Brest, Lille, puis va à Monaco. Il faudra cravacher encore.
Ah, ouais, faudra cravacher.
Je crois qu'ils ont un point en moins avec leur différence de but, Nantes.
Exactement.
Mais...
Et ça se crispe en face du côté de Nice, puisque Dante et Boulka mettent des tirs sans donner de nom. Marcin Boulka en zone mixte, qui n'a pas compris certaines attitudes. Est-ce qu'on a l'élément vidéo? Eh ben non, là en tête, je ne comprends pas certaines attitudes, c'est pour ça que je l'ai mal pris. C'est une grande frustration. En vérité, si on veut viser haut, c'est individuel. Chacun doit se regarder dans une glace et se demander s'il a envie. Pour moi, certains n'avaient pas envie en première mi-temps. Ils donnent pas de nom. Il faut régler les problèmes tout de suite. Sinon, après, on va avoir des regrets. Comme contre Nantes, pour moi, c'est inacceptable. Ce n'est pas le premier match à domicile qu'on ne gagne pas. Ce n'est pas continuer comme ça. Dante, sur Prime Vidéo, on l'a en vidéo, on l'a en texte. Texte, c'est pareil. Les médias m'avaient fait du Victor Hugo, là, les copains. Oui, son discours passe toujours. Farioli, hein, je pense que c'est trop facile de s'en prendre au coach. Encore une fois, vous mettez certains joueurs à un trop haut niveau. Ces joueurs de très haut niveau doivent aider le coach. Je suis du côté des joueurs, donc je prends cette responsabilité. Voilà. On doit se dire les choses, on va dire calmement.
Oh,
Dante et Boulka qui lâchent des mines, là. Il est où le problème à Nice?
Bah, visiblement, c'est dans le vestiaire, quoi.
Oui, bah oui, bah,
attends, non, mais il y a des joueurs.
Et en fait, le truc, c'est
qu'il y a des joueurs qui sont quand même allés en équipe de France et qui n'ont pas un rendement suffisant depuis plusieurs mois.
Stéphane Thuram.
Voilà. Ouais. Qui n'ont pas un rendement suffisant depuis plusieurs mois à Nice. Et peut-être que parce que ça ne correspondait pas à ce que demandait Farioli, mais je suis d'accord, la remise en question des joueurs, pour moi, c'est prioritaire.
C'est une jeune équipe. Après, Dante, il est un peu plus âgé, il a de l'expérience, mais autour de lui, c'est quand même une équipe qui est assez jeune. Et je pense qu'une saison comme celle-ci va leur apprendre beaucoup. On les a mis très, très haut parce qu'effectivement, ils ont très bien.
C'est la deuxième ou troisième à chaque fois qu'ils se cassent la margoulette. Hein.
Ouais, mais c'est pas facile. Hein. Faut tenir comme ça. T'as un jeune coach qui vient d'arriver. Encore une fois, Nice, c'est pas l'équipe la plus stable au niveau entraîneur et niveau effectif depuis l'arrivée de Ineos. Pardon. Et donc, effectivement, on peut pas leur demander des miracles.
C'est quoi votre constat, Yvan, là, sur Nice?
Dante, c'est le parrain du club, du vestiaire, c'est le boss. Donc, quand il fait des sorties, c'est jamais pour rien. Et Boulka, c'est un guerrier. Il est jeune, mais c'est un guerrier. Il va toujours gagner au petit jeu, en compète. Il veut tout gagner. Et il n'est pas content quand il ne sent pas la bonne énergie et quand il ne sent pas les mecs concernés. Et oui, force est de constater, pour ceux qui ont vu le match, qu'on n'a pas reconnu l'équipe de Nice. Quoi. Mmh.
Ou alors on l'a trop reconnu.
Bah, ça fait un moment que
c'est un bout de temps.
Ah oui, ouais, c'est un moment de saison aussi, il y a des coups de moins bien, il y a de la fatigue. On a mis les joueurs tout en haut.
Franchement, c'est foutu, Nice, là.
Non, mais il y a une telle vague aussi de Farioli, c'est Ancelotti, les joueurs, c'est tous des champions. Et à un moment, ça redescend aussi.
Ah, mais là, ça redescend sévère.
Et oui.
Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont quand même, sur le pouvoir offensif, l'un des effectifs après Paris et Monaco.
Boga, Laborde,
et il y a du monde devant, quoi. Et puis Mdiaye Daïchimier, ça fait un peu de mal de ne pas là, parce que lui c'était quand même un sacré joueur. Puis c'est vrai que Todibo, la baisse de régime un peu de Todibo, qui était quand même aussi un pilier avec Dante, ça va faire mal.
Bon, le coup de gueule en tout cas du week-end, là il est hors concours, c'est Laszlo Bologna qui a complètement ressemblé Alexandre Okidja. Okidja veut tenter une talonnade, malheureusement ça fait le quatrième but pour l'AS Monaco. Le ressemblage juste après la rencontre, Laszlo Bologna, attention ça pique.
C'est un manque de respect vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ses coéquipiers, vis-à-vis de staff technique, vis-à-vis du club, vis-à-vis de supporters. Ce sont des choses lesquelles un joueur professionnel il ne fait pas. Même s'il réussit, tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que tu es sérieux. Moi, ma sanction, laquelle je peux faire, je vais faire. Quelle va être ça? Je regarde pour moi.
C'est une énigme quand même, on sent la solution.
Non, mais le geste qu'a tenté, tu le réussis, c'est une faute. Ouais. C'est ce qu'il dit en fait. Là.
De toute façon, moi, je supporte pas quand un entraîneur prend un joueur comme ça. Et, les résultats de Metz, c'est pas que Kukidia. Ouais. Parce qu'ils ont quand même pas, ils en ont pris quatre autres. Hein, il y a le quatrième.
Parce que lui, les tactiques qu'il met en place, il respecte le public. Parce qu'il gagne pas un match à domicile, il joue en 5-5-0, il joue sans attaquant et il respecte le public. Mmh. Non, mais parce que moi, j'en peux plus de voir cette équipe. On souhaite jamais que les équipes descendent. Mmh. Mais le Metz de Laszlo Bologna, moi, je comprends pas ce qu'il veut faire.
Ok, alors le gardien de but a voulu mettre un peu de solaire.
Okidja, c'est de loin et c'est pas du tout le plus mauvais. Il leur a gratté des points.
C'était utile.
Il leur a gratté des points.
C'était utile, intelligent de faire ce qu'il a fait.
Ah, parce qu'ils auraient gagné.
C'est pas ça qui fait descendre. C'est trop facile de s'en prendre à lui, effectivement.
Au moins, on a vu un beau geste à Metz.
Alexandre Okidja l'a confessé. J'ai fait n'importe quoi. Ah, il le dit, Alexandre.
À force de voir ses coéquipiers toute la saison qui font n'importe quoi.
Au moins, lui, il est honnête après. Lui, on pourrait l'écouter pour la VAR. Au moins, il dit des choses.
Voilà, j'ai fait n'importe quoi, c'est ce qu'a dit Alexandre. Et on termine par le derby du Nord. On avait commencé notre week-end ensemble, ma chère Siani. Lille 2, Zegrova 2 plutôt, Lens 1, Eden Zegrova donc se doublé. Est-ce que c'est une star de notre championnat? Siani, vous avez réfléchi, vous avez dit non. Là, lundi, vous dites finalement, par rapport à ce que j'ai vu ce week-end, c'est une star du championnat. Tout allez-y, ma Siani.
Bah, si je regarde par rapport à ce que j'ai vu hier à Clermont, je vous dirais plutôt oui, mais non. Enfin, vraiment, je
reste
sur ma position. J'aimerais le voir l'année l'année prochaine et celle d'après pour voir s'il est capable de maintenir un niveau de.
Mais il sera plus là,
c'est pas ce qui. On n'est pas
sur le fait du foot, c'est un plan et pas le logement, Chani.
Sur une demi-saison en Ligue 1. Non, j'en veux plus. Moi, je suis exigeante. Je veux des stats, je veux du spectacle et je veux qu'il me.
Tu vois, ils ont déjà tué. Les journalistes ont déjà tué Nice. Ils sont en train d'attaquer Zagreb.
Voilà, tu vois ça ? Merci, président.
Le joueur, c'est quelqu'un de raisonnable. C'est individuel en Ligue 1.
Non, mais pour moi, la star de. Déjà, ma star de Lille, pour moi, c'est Jonathan David, c'est pas Zagreb. Donc après, on peut débattre sur Zagreb. Pour moi, David est déjà au-dessus. C'est un très beau joueur. Il est magnifique à voir.
C'est un frisson quand on dit star. C'est-à-dire un joueur que tu as envie de voir parce qu'il a un truc que les autres n'ont pas. Il a des capacités.
Il donne des frissons, mais pas des étoiles.
C'est un petit rebelle.
C'est facile, ouais.
Hervé, il perd ses duels, il a 4 points.
Hervé, vous perdez vos duels, mais vous avez les jokers. Voilà, mes amis. Hervé, vous aurez le joker. Un quiz inspiré du classico de dimanche soir où Vitinha et Gonzalo Ramos sont marqués.
Portugais.
Alors, le thème est le suivant : les buteurs étrangers lors du classico. Alors, vous enlevez les Français, hein ? Les étrangers qui ont marqué. Donc, Colomboigny, merci. Les buteurs étrangers lors du classico, attention, premier indice : je suis portugais.
Paoleta,
4 points.
Pour Ivan Lenay. Il disait comme s'il y avait un seul portugais.
Portugais buteur.
6 fois pour le Paris Saint-Germain lors des classicos. Bravo. Non, pas attention, je suis le meilleur buteur étranger de l'OM en classico. Mamanoukang, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Allez, un deuxième indice. À 34 ans, je joue encore en Ligue 1 actuellement. Hervé, peut-être ?
Je dois le connaître.
Pour 2, je suis gagné. Pour 2 points, je suis gagné.
Ayou.
Siani Dalma.
Ah là, tu perds sur ton fils, là. Ça.
Ah oui, c'est sans lieu. Dédé, excuse-moi. Dédé, si tu regardes l'émission, désolé.
J'ai marqué contre l'OM cette saison. Buteur étranger lors du Classico. Allez, vous en faites le classico, là, du mois de septembre, octobre, septembre, je ne sais plus. J'ai marqué.
Asensio,
c'est une mauvaise réponse.
Je reviens.
Vous ne pouvez pas revenir.
Hakimi,
4 points pour Lyon-Limet sur un superbe coup franc.
Allez, on enchaîne, là.
Ah oui, on enchaîne.
Je suis argentin. Pour Castor.
Lucho.
Lucho González. Lucho
même
González.
Si c'est pas lui, je m'en fous.
4 points, adore, c'est lui.
C'est lui. Et je sais même plus qui
j'adore
est.
J'adore ce
mec. Je m'élimine.
4 points. Hervé, vous avez les jokers, mais vous avez le seul sans points. Attention, stylo, attention, ça peut l'air.
Il joue sur la chance, le mec.
J'ai marqué lors de la dernière victoire de l'OM.
Niang.
Mamanou Niang, c'est Tauvin. Une mauvaise réponse. Tauvin, il est français.
Ouais. Non, c'est pour ça que je l'ai
dit.
Ça vous élimine. Brandao.
Je vous avais prévenu. Brandao, malheureusement, vous allez passer.
Je reviens dans le jeu.
Vous revenez dans le game, comme disent les gens.
Zenden.
Non. Putain, après l'ouverture du score d'Alexis Sanchez, j'offre la victoire sur une frappe du gauche. Après l'ouverture du score d'Alexis Sanchez, j'offre la victoire à l'OM sur une frappe du gauche.
C'est Romain Alessandrini, non ?
C'est en quelle année la dernière victoire ?
Bah, Sanchez.
Après 6 mois, je suis parti dès l'été dernier.
C'est l'Ukrainien, là.
Mais ne les aide pas.
Non, non,
je suis ukrainien.
Malinovski.
Malinovski, bonne réponse. Bravo.
Tu comptes te l'éliminer quand ?
Vas-y.
Ah non, mais puisque tu
élimine ton ami. Élimine ton ami plutôt. Non, non, t'as été gentil.
Attention, mes petits, j'ai inscrit 3 buts pour l'Olympique de Marseille dans les classicos. 3 buts pour l'Olympique et je suis joueur étranger.
Brandao.
Andao, c'est une mauvaise réponse, car je suis défenseur central pour 3 points.
Diawara,
Soulé ? Non, ce n'est pas lui.
Gabi Heinze,
ce n'est pas lui. Je suis belge.
De Van Buyten.
Van Buyten, 2 points pour Hervé Penaud qui ouvre son compteur. Son compteur point. Attention, nous avons encore 4 questions. Voilà. 4 questions. J'ai marqué un but de légende lors du classique.
Cavani,
4 points pour Hervé Penaud.
Il est lancé.
La machine est lancée.
C'est quoi le but de légende ?
Le coup franc.
Ce golazo permet au Paris Saint-Germain de réaliser.
Faute de Rongier,
but
de
Cavani.
Attention, ça peut aller très vite, écoutez bien. Je suis le meilleur buteur du classique. Zlatan Ibrahimovic, 4 points.
Meilleur buteur des gars.
Mais c'est parce que tu dis ça peut aller vite.
Ça va vite.
Il reste 2 questions.
Il reste 2 questions. Thauvin ne fera pas partie de ce game.
Thauvin, je réfléchis à votre.
J'élimine
Hervé.
J'ai planté.
Il n'est pas italien, toi.
Attendez. Oui. Élimine notre ami.
T'as vu qu'il y a des points, toi, déjà.
Ah, vous éliminez qui?
Yvan.
Yvan,
c'est très fair play.
Il a gagné.
J'ai planté lors de la dernière victoire parisienne avant QSI. Je suis étranger. La dernière victoire parisienne avant QSI.
Kezman.
Mateja Kezman, ce n'est pas une bonne réponse de Téline. Ouais. Entre 2009 et 2012, j'ai marqué 30 buts en 110 matchs pour Erding. Le Paris Saint-Germain. Mevlut Erding, bonne réponse de Céline Lalma. Enfin. La dernière pour la route.
Oh, mais allez-y, Alvaudi, c'est vous.
On va requalifier.
Battez-vous.
J'ai remporté la Ligue des Champions. J'ai remporté la Serie
A. Ramos.
Sergio Ramos.
Ouais, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Fabrizio Ravanelli.
Comment ?
Ravanelli,
ce n'est pas lui.
Je vais vous regarder perdre comme ça.
C'était avec l'OM pour 3 points. J'ai remporté la C1 et c'était avec
l'OM.
Boxing. Drogba, non.
C'est Alain Boxing.
Mais vous les placez son
pote. Voleur. Foleur.
Non.
Que des folles.
Mais... Boxing, vous êtes éliminé.
Ah, Mehdi Pelé, je vais tous les dire.
Vous êtes éliminé.
Mais non, il a remporté la C1 avec l'OM.
Ah, Mehdi Pelé.
Ah, t'as remporté avec l'OM.
Dis-moi, Padre.
J'ai remporté la C1, c'était avec l'OM.
On est tous éliminés, là.
Non, il reste moi.
Non, il n'y a plus que Siani.
C'est pas toi qui est marseillaise.
Je marque d'ailleurs contre le PSG en 93.
Eh oui.
Je suis le véritable renard des surfaces.
Oui, il dit
Foller.
Moi je l'ai
dit. Allez, Pizette, ça marche. Oui,
je l'ai dit.
Déjà un seul vainqueur.
Oh là là. Il a 10 points, il a les 10 points.
Qu'est-ce que j'ai été
contre Hervé Pelon. C'est catastrophe cette année. Perdre contre toi, aucune culture footballistique.
Et la preuve.
On vient de chanter.
Oh le taquet.
Mais à 1h du matin, c'est plus le même.
C'était l'équipe du soir, donc avec la présidence, l'inélégante l'équipe du soir, Johan Micou. On vous embrasse, demain la maison est ouverte. On aura l'OL et Valenciennes à débriefer pour une qualification, soit de l'OL,
et oui,
soit de Valenciennes. Juve Lazio en direct demain en prime time. Hein. Ça sera la demi de la Coupe d'Italie. Allez, on vous embrasse. 4-0 pour Lyon. Ok, très bien. À demain. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song.